Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien installés pour cette émission de football. Si vous êtes sur la route, faites attention à vous. En tout cas, nous on va débattre sur du beau football, comme d'habitude, avec nous du beau monde autour de la table. Jason, comment ça va? Je commence par toi, bien évidemment, je suis obligé de te demander si ça va.
Ça va dans les deux sens.
Inter ont été champions côté Serie A, on va en parler, c'était juste à attendre. Et finalement, Marseille.
Ah, Marseille, la catastrophe.
Ligue des champions pour Marseille.
On va en parler longuement, je pense, mais c'est la catastrophe.
C'est la catastrophe, comme tu dis, Jason. Moussa, bonne semaine de football, je suppose.
Ah, très bonne semaine. Très bonne semaine. Beau match. Parfait.
Merci, Moussa. On parle aussi du match du siècle. Hein. Quand je dis match du siècle, je suis obligé de me tourner vers Bambouri. Comment ça va, Bambouri?
Ça va super, et toi?
Ça va, pas trop déçu? Je pense 5-4 quand même, tout reste à jouer.
Ouais, tout reste à jouer. C'est encore ouvert pour le match retour, on verra mercredi soir.
On verra mercredi soir à l'Allianz Arena, bien évidemment. Omar, je suppose que toi aussi, tu as suivi cette bataille au Parc des Princes et que tu as passé une bonne semaine de football, Omar.
Oui, bonsoir à tous, je suis très content de vous retrouver tous. Voilà. Oui, excellente semaine de football et quel match. Je pense qu'on aura le temps d'en parler de ce match.
On aura le temps d'en parler, bien évidemment. On va commencer directement avec la Ligue 1. On va pas faire de détours. On va aller droit dans le mur. C'était le titre de l'émission précédente. Et c'est ce que Marseille font en ce moment. Marseille, tout simplement, qui se sont inclinés très lourdement. 3-0 face au Nantais. Marseille, je discutais avec certains supporters marseillais qui supportent Marseille depuis tant d'années et qui aujourd'hui ne supportent plus Marseille, du moins ne regardent plus le football aussi, ça les a vraiment dégoûtés du football et ça depuis plusieurs journées. Et je pense avec ce qui se passe en ce moment pour Marseille, ça n'arrange pas les affaires. Marseille qui ont perdu 3-0, les Nantais ont été tout simplement au-dessus, ils les ont maîtrisés de bout en bout avec Cabella qui a marqué que 2 buts dans la saison et les 2 buts c'était face à
Marseille.
Marseille, messieurs. Ablin, lui aussi qui marque.
Lui qui n'existait plus.
Face à Marseille. Voilà, qui a une seconde vie et qui prend une petite revanche. Apparemment, il y avait des négociations entre Nantes et Marseille pour Ablin. Et finalement, ça ne s'est pas concrétisé. Mais aujourd'hui, il a montré avec un super but. Il a slalomé entre la défense marseillaise pour pouvoir inscrire ce but du KO. 3-0. Il n'y a pas eu de retour de la part des Marseillais. Il n'y a pas eu de révolte, absolument rien. Tout, ça a été le néant. Messieurs, comment vous pouvez décrire tout simplement cette performance des Marseillais, Omar?
Insipide. Franchement, je crois que c'est le pire OM que j'ai vu depuis au moins 10 ans, facile. Et c'était à l'époque de Mitchell. Il n'y a rien dans le jeu, rien dans le contenu. Ils ont fait passer Nantes pour le Brésil, je veux dire. Mais là, c'est catastrophique. Il n'y a rien qui va. Ils ont fait un séjour à Marbella, ça n'a rien donné. Ils se sont mis en confinement à la commanderie, ça n'a rien donné. J'ai l'impression que Abibay lui-même, il est perdu et que je pense que son séjour, enfin son retour à la Canebière, il va être très très court.
En tout cas, ça va être très très court, on suppose, parce que les objectifs n'auront pas été atteints. Marseille, qui ont été éliminés de la Coupe de France, on le rappelle, par Toulouse. Et là, tout simplement, les Marseillais qui ne joueront plus de Ligue des Champions, c'est officiel. Qu'est-ce que tu peux en dire de cette défaite?
Non, franchement, Marseille, en fait, plus les semaines avancent, plus c'est pire, en fait. On avait déjà mis le doigt dessus les semaines d'avant. On avait déjà parlé que Marseille, c'est compliqué. Les joueurs, on dirait qu'ils ont lâché. Qu'est-ce que Bay peut rapporter à cette équipe? Mais là, en voyant le match de ce week-end, non seulement les joueurs, je ne sais pas ce qui leur passe par la tête. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont abandonné. En fait, ils jouent parce qu'ils doivent jouer, mais pas, ils ne mouillent pas le maillot. Les choix tactiques, quand ben, il veut récompenser ou punir des joueurs, bah, ça ne marche pas. Parce que, bah, au final, les personnes qui remplacent ces joueurs-là ne répondent pas présents aussi. Donc, franchement, enfin, il reste deux matchs. Et encore heureux qu'il reste deux matchs pour eux. Mais je pense que cet été, il va falloir faire un ménage, remettre les têtes à l'endroit et repartir de plus belle. Même si, on sait, à Marseille, le problème, c'est la stabilité. Mais bon, là, je ne pense pas qu'il y aura encore de la stabilité. Donc, ça va être reparti encore sur un autre projet et à voir avec les nouvelles personnes qui vont arriver.
Et c'est là que je voulais mettre le doigt dessus, tout simplement. Hein. Est-ce que Bambori, Marseille, n'a pas ce problème-là, hein, parce que là, on parle de ménage, encore une fois, de coach qui va être sûrement limogé en fin de saison, hein, parce qu'on rappelle qu'Habib Bey a un contrat jusqu'à décembre 2026. Du coup, est-ce que c'est la bonne solution de virer les joueurs, de repartir sur une nouvelle base, comme ça s'est fait il y a 6 mois, comme ça s'est fait il y a 1 an, comme ça s'est fait il y a 2 ans, et on voit que Marseille, bah, c'est tout simplement de pire en pire.
Pour moi, c'est pas la bonne solution, même si avec Bey, bah, là, ça va droit dans le mur. C'est pas la bonne solution de changer chaque saison. Il faut laisser quand même du temps à l'effectif, changer 2-3 personnes, et le coach, faut le garder un peu comme à l'image de Arsenal avec Arteta. Ça n'a pas vraiment marché, mais on voit que petit à petit, ça avance, même si cette saison, on dirait qu'ils vont encore faire une saison blanche, mais ça avance petit à petit. Et de remanier chaque saison l'équipe, pour moi, c'est problématique quand même. Parce qu'il n'y a, rien de solide après.
Absolument, il n'y a rien de solide. Hein. C'est bien ça le problème côté marseillais. Hein. Marseille qui sont complètement à la dérive. Hein. Bah Jason, je vais tout simplement te demander de me donner ton avis sur cette équipe de Marseille avec Greenwood qui marche, Abdelli qui est en clash avec Habib Bey. Rien ne va plus, hein, que ça soit dans le vestiaire, côté Benassia aussi, rien ne va plus. En fait, rien ne va plus nulle part, donc ni sur le terrain, ni dans les tribunes, aussi les supporters qui montrent leur mécontentement. Jason, qu'est-ce que t'en penses de tout ça et qu'est-ce qui pourrait être la solution ?
Bah, Marseille, là, en ce moment, c'est un naufrage collectif. Il n'y a plus personne qui répond. Il n'y a plus de capitaine à bord. Bey, franchement, Habib, c'est très, très, très compliqué. Il n'arrive pas à s'imposer. Les joueurs ne le suivent pas. L'ont complètement lâché. Là, que ce soit supporters, dirigeants, tout le monde est à la rue. Joueurs, là, tout le monde est largué. Personne ne comprend ce qui se passe. Et Bey, il est passé du rêve au cauchemar. En arrivant à Marseille, il était content. Il a réalisé son rêve. Il s'est dit, je pense qu'il a vu trop grand. Il a vu beaucoup de choses. Et en fait, arrivé sur les lieux, il a dû se rendre compte dans quel bourbier il était rentré. Je pense qu'il ne s'attendait pas à ce que ça soit autant intense. Parce que là, il est rentré dans un trou où il n'arrive même pas à s'en sortir.
On se rappelle de ses premières déclarations. Hein. Là, je suis à Marseille. Je suis arrivé, on était 4e. Maintenant, on est 3e. Voilà, il voulait prouver tout de suite que ça va vers l'avant.
Le pire, c'est que...
Excuse-moi, Jason, de te couper, hein, je vais te redonner la parole de suite. Et il y avait aussi ces moments-là où il était consultant et on entendait comment Luis Enrique gérait le cas Mbappé. Et lui disait qu'il avait pratiquement toutes les bonnes choses, en tout cas toutes les bonnes méthodes pour s'occuper d'un type de joueur. On rappelle, bien évidemment, Greenwood n'est pas Mbappé, mais Greenwood a une forte personnalité. Et aussi est leur homme fort côté marseillais. C'est lui que tu dois savoir gérer et le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il puisse apporter ce qu'il manque à cette équipe. Hélas, on voit bien que Habib Bey n'arrive
pas à gérer. Mais c'est là où on voit la différence entre être consultant et être entraîneur. Être consultant, on pense tout savoir. On pense connaître chaque situation parce que lui a été joueur. Donc, il a vécu avec des grands joueurs, avec Didier Drogba. Il a connu des joueurs de haut standing, donc il a vu comment ces coachs-là ont pu gérer ces stars-là. Mais lui, arrivé sur le terrain, lui, personne ne le connaît. Un joueur comme Greenwood ne le connaît pas. Donc pour lui, c'est personne. Et là, il se rend compte de la barrière entre lui et le joueur. Parce que quand tu vois Greenwood, la prestation qu'il fait contre Nantes, c'est inadmissible. Il marche, il joue que quand il a la balle et il jouait personnellement. Mais par contre, il continue à le mettre. Mais même s'il sort Greenwood, le truc, c'est que les autres sont pas mieux. En fait, tu peux pas te dire, je sors Greenwood pour mettre un tel parce que Le joueur qui va mettre derrière, il sera pas meilleur. Et en ce moment, je sais pas quelle solution il va avoir, parce que pour moi, Marseille n'arrivera pas à gagner un seul match sur les deux derniers. Ils peuvent s'en sortir avec un nul au Havre. Et je pense que contre Rennes, ça sera une défaite contre son ancien club. Mais là, Marseille, tu vas droit dans le mur. Autant terminer la saison, faire un reset en fin de saison, balayer ce qu'il y a à balayer, parce qu'il y a des joueurs à sortir. Il y a des joueurs, ils n'ont plus du tout la tête à Marseille. Donc, autant les enlever et repartir avec les retours de prêt, comme par exemple Amin Harit, Bamo Meïté, repartir avec des mecs revanchards et les relancer, parce que c'est même pas dit qu'il y ait de Coupe d'Europe. Donc, les relancer et enlever tous les autres là-bas, Lerdi, Medina, il vient d'arriver, tous les mecs là, qui Hochberg, tout ça là, Pavard, allez, oust, et tu recommences un projet, parce que franchement, comme on dit, hein, Marseille tous les 3 ans, 2 ans, c'est un projet, et ben là, ça va recommencer. Mais il n'y a pas le choix,
Après,
merci Jason.
Si je peux rajouter, franchement, Greenwood, c'est vraiment le symbole. Hein. Sous De Zerbi, je crois que c'était le meilleur buteur de Ligue 1. Et là, il n'arrive même plus à mettre, comme tu as dit Jason, un pied devant l'autre. Ah, depuis qu'Abibé il est entré, est-ce qu'il a marqué même un but? Je crois même pas.
Il a été décisif, je ne sais même pas s'il a marqué.
Non, il n'a pas marqué, je crois pas.
Ah, ouais. Et là, il a demandé son départ, non? De Marseille, je pense.
Ouais.
Greenwood?
Pour aller où? C'est ce que j'ai vu tout à l'heure, en Arabie Saoudite.
Je sais qu'il y a la Juventus qui est sur lui.
J'ai vu la Juve, mais bon, la Juve, ils ont toujours des problèmes d'argent.
Ouais.
Mais ça peut être intéressant pour la Juventus.
Oui, ça peut être intéressant.
En plus, il n'y a personne sur le flanc droit. Ouais. Ça peut être intéressant, mais oui, en tout cas, si c'est ce que...
Mais de là aussi, c'est que Bale, là où il doit se poser des questions, c'est aussi sur sa tactique. Parce que moi, je ne comprends pas, il met un 4-2-3-1 avec un Timber qui n'est pas un numéro 10. Il met que des relayeurs au milieu de terrain.
Et surtout, Weah, pourquoi il ne met pas Weah? Il est blessé, Weah, ou...
Ouais, je sais pas, peut-être qu'il est blessé.
Parce que mettre. Traoré, piston.
Je sais pas pourquoi il persiste avec Traoré. Peut-être qu'il a vu une élimination de Traoré à ce niveau-là. Mais,
bah, les deux matchs qu'il a fait, il n'a pas été bon. Hein.
Il continue. Apparemment, il est bon à l'entraînement.
Il le voit à l'entraînement.
L'entraînement et la vérité sur le terrain n'est pas la même chose. Et il devrait le savoir. En tout cas, lui-même aussi, on peut dire qu'il s'enfonce dans sa gadoue, quoi. Lui-même, il se tue tout seul.
En tout cas, messieurs, ça a été très compliqué pour cette équipe. Hein.
Et
oui, Weah a eu un carton jaune, c'est pour ça qu'il
d'accord.
Et je tiens à dire aussi que les résultats qui sont en ce moment pour Bay, bah, ça ne parle pas pour son image, surtout. Et je ne pense pas qu'il y ait prochainement un club de Ligue 1 qui lui fera confiance, parce que...
Bon, après, sauf une équipe peut-être qui joue le maintien ou quoi, ils peuvent...
Mais même,
Parce qu'avec Rennes, il n'a pas fait que du mauvais boulot.
Ouais, mais dans la gestion des hommes.
Et on sait
tous
que Marseille, c'est compliqué.
Mmh. Oui, mais même à Rennes, dans la gestion des hommes, c'était pas ça.
Bien sûr, mais après.
Il retrouve le même problème à Marseille.
C'est vrai, mais après, quand il s'en est allé de Rennes, il était quand même sur un beau parcours. Il avait quand même enchaîné des belles victoires. Où il était bien remonté.
Ouais, mais
quand
tu retiens Bay, tu ne retiens pas niveau tactique, il n'y a rien. En fait, il ne te marque pas par la tactique et il ne te marque pas par la personne. Tout ce qui te marque à chaque fois qu'on entend Bay, c'est les discours avant match et après match.
Ouais, il s'est très bien expliqué ça. Sur
c'est
ça,
tout ce qu'on entend. Mais après, quand il s'agit du...
Ça fonctionne en Ligue 2, pas en Ligue 1.
Ah bah, même la Ligue 2,
peut-être
il a pas encore la Ligue 2.
Valoriser les jeunes, peut-être.
Voilà. Donc, moi, je pense que avant qu'on lui redonne un projet, ça va être compliqué.
Merci messieurs, on va passer au sujet suivant, hein. On va continuer toujours sur la Ligue 1. Monaco qui s'impose en fin de match face à Metz grâce à un but de Ansu Fati, hein, en fin de match. La première titularisation de Paul Pogba, hein, messieurs. Paul Pogba qui n'avait plus joué depuis 3 ans, qui n'avait plus été titulaire depuis 3 ans, hein, avec les blessures et notamment là sa suspension de 2 ans. Lyon qui se sont imposés 4-2 face à Rennes et prennent des points importants à la course à la Ligue des Champions, hein. Lyon qui ne peuvent plus se faire rattraper déjà par Marseille, hein. C'est déjà une chose de valider. Bambouri, qu'est-ce que t'en as pensé de la confrontation des Lyonnais face aux Rennais? Lyon qui se sont imposés 4-2, Hendrick qui a marqué, Tolisso qui a été double passeur et buteur sur penalty. Qu'est-ce que tu en as pensé de la prestation des Lyonnais qui joueront sûrement la Ligue des Champions? Au pire des cas, ils joueront les barrages parce qu'ils en ont profité, puisque Lille n'ont pas réussi à gagner et ont été tenus en échec face au Havre.
Bah, Lyon-Rennes, c'est une belle confrontation tout d'abord, et Lyon, vraiment, ils ont livré un gros match avec Tolisso encore qui fait encore des beaux matchs. Hendrick l'a un peu encensé en fin de match en disant que c'était leur leader et que c'était l'un des meilleurs joueurs qu'il avait vu jouer. Et vraiment, Lyon, bah, là, ils font le bon coup puisque Lille, ils ont fait nul contre le
Havre.
Havre. Oui, voilà, 1-1. Donc, ils peuvent monter sur le podium et là, il leur reste deux matchs pour s'assurer une place en Ligue des Champions, ce qui est bien pour eux.
Ouais. Comme tu l'as dit, hein, ils ont assuré le bon coup. Hein, c'est deux points de plus que leurs concurrents comme Lille et quatre points de plus désormais contre Rennes. Hein, voilà, c'était un match à six points, un vrai match à six points. Hein, là, maintenant, les Lyonnais sont sortis de ça. Monaco, qui ont 54 points, hein, peuvent comptablement, en tout cas, croire encore en la Ligue des Champions, au moins au barrage, parce qu'il y a quatre points de différence entre les deux. Et Monaco qui joueront Lille surtout le match prochain hein. Du coup ça pourrait être un match aussi à 6 points en cas de victoire ils pourraient rattraper Lille en tout cas à être un point près des Lillois, mais les Lillois n'ont pas le droit de fauter et doivent au minimum faire une victoire pour assurer au minimum les barrages côté Lillois. Et les Rennais eux les perdants de ce haut de tableau, hein, parce que c'est eux qui ont fait vraiment la mauvaise affaire aussi. Hein. Lille aussi ont fait une mauvaise affaire face au Havre, hein, un but partout. Moussa, qu'est-ce que t'en as pensé?
Ouais, Lille, franchement, je regardais le match, je me suis dit, bon, Lille, ils mènent 1-0. Je me suis dit, bon, Lille, ils sont sur une bonne lancée, ça va continuer. Après, ils se prennent ce but-là, et ils n'ont pas su après remettre le deuxième souffle pour aller finir cette équipe de le Havre. Mauvais résultat pour eux, parce que les concurrents gagnent. Et comme tu l'as dit, ça va être compliqué pour eux jusqu'à la fin de saison pour essayer de gagner.
Bah, ils ont Monaco à jouer et ils ont Monaco et Auxerre. Auxerre qui n'ont pas fini
et qui se battent pour la descente.
Et,
hein.
Oui, ouais. Voilà, et qui sont imposés d'ailleurs ce week-end 3-1 face aux Angevins. Lille, hein, qui ont, je vous le rappelle, hein, qui ont tiré 22 fois au but, 10 tirs cadrés pour un expected goal de 1,55 contre 0,14 pour le Havre qui ont fait deux tirs cadrés de un but.
Bravo Havre, hein, quand même, ils sont partis chercher le point hein, et c'était pas évident. Après, ouais, c'est décevant de Lille parce qu'on se disait, bon, ils tenaient enfin le bon bout et ça allait finir tout droit. Mais là, ils doivent regarder dans le rétroviseur, du coup, je pense que ça va être compliqué hein, cette fin de saison, notamment les deux derniers matchs-là. Et c'est pas des adversaires qui... En fait, encore s'il y avait des adversaires qui n'avaient aucun enjeu, j'aurais dit, bon, il y a moyen qu'ils fassent le taf, mais là, c'est pas dit. Donc, je ne mettrais pas une pièce sur Lille, perso.
C'est pas dit, oui. Les Lensois, eux, qui ont encore failli à leur mission, hein, qui ont été tenus en échec... face à Nice, un but partout, hein, les Niçois qui grattent des petits points par-ci, par-là, hein, et c'est ce qu'ils font qu'ils se rapprochent peu plus du maintien. Oui, eux qui comptent désormais 3 points d'avance sur Auxerre, mais pas une meilleure différence de but. Donc, en cas d'égalité, Auxerre peuvent leur passer devant.
Mais je pense que c'est les face-à-face qui comptent en Ligue 1.
L'équipe qui a gagné entre Nice et Auxerre. Ouais.
Et c'est Nice qui avait gagné match aller, je pense, 3-1.
Non, c'est des différences de but.
Ouais, c'est pas confrontation.
Non, les confrontations,
c'est en Italie.
C'est en Italie et en Liga, il me semble.
Ah ouais.
Ouais. Il me semble que c'est en Liga et en Italie. Mais en Ligue 1, oui. En Ligue 1,
la différence de but.
Ouais, ça reste la différence de but. Donc, Auxerre ont encore des chances. Mais après, y aura un match direct, une confrontation directe. Donc, si Auxerre bat à domicile les Niçois, ils peuvent leur passer devant. Et après, Nice, il leur manquera ce petit match de gala face à Metz. Metz qui n'ont plus rien à jouer, hein, qui ont été officiellement.
Ça peut être les plus dangereux aussi.
Oui. Ils sont libérés.
C'est vrai.
Ils sont libérés maintenant.
Mais Auxerre, eux, iront à Lille pour la dernière journée.
Ça va être compliqué.
Ça va être compliqué.
En fait, voilà. Tout va se jouer, je pense.
Leur confrontation directe, ouais, mais même là-bas, ça ne va pas jouer. Parce que même si tu repasses devant les Niçois.
Mais... Oui,
si
oui,
les Niçois prennent 3 points derrière, Lille, et toi, tu faut que tu ailles battre Lille là-bas,
ça va être très compliqué.
Ça va être très compliqué. Donc là, en tout cas, ça commence à se dessiner, messieurs. Strasbourg qui ont perdu à domicile, eux qui ont eu une équipe un peu remaniée. Hein. Petite alerte pour Emega hein, qui est resté au sol en fin de match. Hein. On espère que ça ne sera pas grave et qu'il pourra être là pour demi-finale retour.
Ah, je pense qu'il ne sera pas là.
De la Ligue Europa.
Ouais, parce que Coman, il a fait un communiqué déjà. En parlant déjà, lui, pour la Coupe du Monde.
Ah oui, alors que c'est dans 2 mois. Ouais.
Donc, c'est même pas. Je pense pas qu'il sera là au match retour.
Ok, bah, en tout cas, c'est une grosse perte pour les Strasbourgeois.
Après, Panicelli.
Panicelli n'est pas là.
Les Mégas.
Ouais, ça leur fait un gros trou parce qu'on a vu en plus qu'ils n'ont pas été efficaces ce week-end, en tout cas cette semaine en Ligue Europa, en Ligue Conference League. Ils n'ont pas été efficaces offensivement. Mais on y reviendra juste après. Du coup, le Paris Saint-Germain qui ont été tenus en échec hein, face à Lorient, 2-2 avec une équipe bien remaniée, hein, avec des nouveaux Titi qui ont fait leur entrée côté parisien. Paris FC qui ont battu Brest 4-0. Paris FC qui ont fait une vraie démonstration de force, hein, tout simplement, et qui ont peut-être l'occasion de terminer dans la première partie de tableau, même si ça va être compliqué, puisque leurs deux prochains match, c'est contre Rennes, à Rennes, et l'autre au Stade Jean-Bouin face au Paris Saint-Germain, ouais. Oui, pour un derby parisien. Voilà pour la Ligue 1, messieurs, on rappelle le classement, le Paris Saint-Germain premier avec 70 points, Lens deuxième avec 64 points, Lyon troisième avec 60 points, on rappelle que PSG et Lens ont un match en retard, hein, c'est leur confrontation directe. Les Lillois qui ont 58 points, 4e. Rennes avec 56 points, 5e. Monaco qui sont passés devant Marseille, 6e avec 54 points. Et Marseille qui compte désormais 53 points. Et la place de 7e ne sera pas. Voilà, c'est juste si Lens gagne que ça peut être bénéfique pour les Marseillais. Donc les Marseillais qui auront intérêt pour l'instant en tout cas à pousser derrière les Lensois. On rappelle hein, Marseille qui devront se déplacer au Havre pour la prochaine journée, et le match d'après ils recevront au Vélodrome, un Vélodrome bouillant hein, qui les attendront je pense face à Rennes. Voilà en tout cas pour le bas de tableau, le Havre avec 32 points, eux qui ne sont toujours pas sortis d'affaires, hein, même Angers comptablement, Angers peuvent encore redescendre hein. Angers peuvent redescendre aussi comptablement puisqu'ils sont à 34 points à 6 points de Auxerre hein. Le Havre, ouais, le Havre, 32 points. Nice, 31. Auxerre, 28 points. Les Nantais, on pense que les carottes sont cuites, hein, malgré la oui, belle victoire. Oui. Ça va être très compliqué d'aller chercher Auxerre. Auxerre ont juste besoin de chercher un petit point.
La journée d'avant Marseille et Marseille, pour y croire.
Ouais, mais, ouais, pour
et en fait, il ne fallait points. Pas que Auxerre aussi l'emporte ce week-end.
Ouais. En tout cas, il y a beaucoup de « fallait pas que ». Du coup, ça sent jamais
mais
très bon.
Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'ils prennent des points... L'adversaire prend les mêmes points.
Si
que... Voilà, donc ça bouge pas. Ça... La différence reste la même.
En tout cas, voilà pour les Nantais. Et Metz, dernier, avec 16 petits points, messieurs. Voilà pour la Ligue 1. On va se faire une petite virgule, messieurs. Même, on va se faire une pause même. Hein. On va prendre une petite pause. Avant de revenir avec Bambori.
La Ligue des Champions.
La Ligue des Champions, bien évidemment, messieurs. On y revient.
Retrouvez Au bout du foot avec El Hadji Makalou. L'émission où on parle de foot comme entre potes. Chaque lundi en direct de 20h30 à 22h sur Mon Paris FM pour des débats passionnés, des analyses sans filtre et des moments de franche rigolade. Ici, le foot se vit et se discute avec authenticité. Rejoignez-nous pour vibrer, discuter et partager autour du ballon rond.
Dans les locaux de Mon Paris FM, excusez-moi, dans les locaux de Mon Paris FM, messieurs, il est 20h58, si vous venez de nous rejoindre. Hein. Nous avons parlé de la Ligue 1, nous allons parler de la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, hein, comme on le disait juste avant, un match, le match du siècle, peut-on dire le match du siècle, messieurs, avec le Bayern Munich face au Paris Saint-Germain au Parc des Princes, hein, le Paris Saint-Germain qui sont imposés 5-4, eux qui ont subi l'ouverture du score, qui sont revenus derrière, qui ont même mené à un moment du match 5-2, messieurs, et finalement le match s'est terminé 5-4. Vos impressions, messieurs, Omar ?
Oh là là. De toute ma vie, alors, je pèse mes mots. C'est le meilleur match de Ligue des Champions que j'ai vu. Et j'ai vu des matchs, hein. J'en ai vu Liverpool-Milan AC, j'ai vu des choses incroyables, Real Madrid de Manchester City. Mais ce match, rien que par la qualité des acteurs, le style de jeu qu'ils nous ont proposé, et vraiment au niveau de l'intensité physique, c'était incroyable. Et peut-être je vais choquer, mais même des certains grands joueurs que moi j'admire, je ne sais même pas s'ils auraient eu leur place sur ce match-là.
Donc, on va pas te demander de citer des noms parce que sinon ça va partir. Ça va partir en cacahuète. On va pas te demander de citer des noms. Jason, tu n'as pas l'air d'accord avec tout ça?
Non, mais non, non, mais de là.
Je suis ouvert au débat personnellement.
De là à dire que certains mythes n'aurait pas pu participer à cette rencontre, je pense pas.
Certaines légendes, après, il n'a pas cité de nom.
Oui, il n'a pas cité de nom, heureusement. Heureusement
si
pour lui.
Si, admettons, par exemple, dans cette légende, il y aurait El Phenomeno, dans un match comme ça, il peut qu'exister.
R9 Prime, avec son intensité et sa technique, oui.
Même pas Prime.
Donc, tout dépend de qui tu fais face.
Oh, je vais dire juste un grand show que tout le monde connaît, mais bon.
Dis-nous un nom, un seul.
Moi
Non, celui derrière. Mais Omar, tu as peur. Omar, il ne faut pas avoir peur, vas-y.
Non, je t'en prie. J'ai pas peur, mais pour moi, franchement, quelqu'un comme... je prends un risque, hein, mais quelqu'un comme Zidane, je pense pas qu'il peut.
Ah, notre cher aimé Zizou, messieurs, est-ce que vous êtes d'accord avec...
Moi, je pense que Zizou se sera adapté à l'intensité d'aujourd'hui.
Mm-hmm. Ouais, je pense aussi.
Et l'époque, c'est lui qui gérait le tempo, on l'aurait mis à cette époque-là, il aurait géré le tempo aussi. C'est juste, tout le monde s'adapte, en fait, à... C'est comme à un jeune. Ouais. Un jeune, tu le fais passer des seniors, des jeunes aux seniors, il va avoir un temps d'adaptation, le temps de s'adapter à l'intensité. Et un grand joueur, c'est la même chose.
Avec tout le respect que je dois à Zidane, hein, parce que c'est l'un des meilleurs joueurs que j'ai vu de ma vie. Mais pour moi, il ne joue pas ce match. Je vous le dis, il est sur le banc.
Ça reste son choix.
Les acteurs sont meilleurs que Zidane.
Ça reste son choix, messieurs. Ça reste son choix.
Pour respecter son avis.
Voilà, mais on ne va pas rentrer dans un long débat, messieurs. En tout cas, on peut demander vos ressentis aussi. Est-ce que ça vous a fait autant sensation, Moussa? Est-ce que tu as eu autant de sensation que Omar?
À 5-2, là? Ouais. Oh, je me suis levé. Ah ouais, à 5-2, j'ai crié partout. J'ai dit, oh, non, c'est pas possible. Après, je me rassois, je vois. Je bouge, coup franc. Non, franchement, le match incroyable. Et tactiquement, je trouve que tactiquement, c'était contrairement à ce que j'ai entendu de certains dans certains médias. Bah, franchement, c'était un grand match de tacticien entre les deux. En fait, ce qui a donné ce match-là, c'est le fait que les deux ne se renient pas. Les deux ont. C'est comme, on va dire, comme c'est des équipes miroirs. Ils ont le même style de jeu et les deux ne veulent pas lâcher. Donc, c'était coup pour coup et franchement, ça a donné un match magnifique.
Merci, Moussa. Jason, tout de suite, qui sort le sourire. Dès que je le regarde, il me regarde, il me sourit tout de suite. Je vois qu'il prend du plaisir à être là autour de la table avec
toujours,
nous, Jason.
Hein.
Nous aussi, on prend également énormément de plaisir. Hein. C'est pour ça que tu es avec nous durant toutes ces semaines, Jason. Fais-nous part de ton analyse sur ce match entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, pour le match du siècle, comme certains.
Oui.
Et pour d'autres, dont même Zinedine Zidane n'aurait pas eu sa place.
Je ne veux pas parler de tout ça dans
ce match.
Mais là où je suis d'accord avec Omar, c'est que moi aussi, c'est l'un des meilleurs matchs que j'ai vu de mon existence et un match où c'est parti en bagarre, c'était coup pour coup, et ça, ce que j'ai aimé aussi, c'est que le Bayern n'a pas renoncé, c'est que c'était soit ils nous abattent ou soit on décide de revenir pour avoir une chance au match retour, parce que quand on voyait le 5-2, moi je me suis dit wow, ça va partir à 6-7 vu comment c'était parti, vu les espaces laissés par le Bayern, mais eux-mêmes étaient sûrs de leur force. Et vu qu'ils étaient dans une période remontada, même en championnat, et c'est là que tu vois 5-3, 5-4, il a failli même avoir le 5-5 avec la tête qui repoussait à la dernière minute.
Dernière seconde.
Bah, avant le 5-5, t'as la
barre.
Ouais, t'as la barre.
Oui. Ouais, mais t'as la tête qui va dans les buts.
Oui.
Que là, très c'est un poteau qui la sort.
Oui, mais très lentement.
Oui, mais si t'enlèves pas, il y a but.
Oui, bien sûr. Mais...
que la barre, tu mets pas de goal, c'est la barre.
Ouais, mais si tu mets pas de goal aussi, tu tires pas pareil.
Oui.
Oui,
voilà.
Aussi.
Tu tires pas pareil. Oui. S'il y a pas un goal,
c'est
tu tires
vrai,
pas pareil.
Aussi.
Merci, messieurs.
Mais
voilà, en tout cas, ça reste quand même un match.
En tout cas, oui, ça a été un match où les acteurs ont été à la hauteur. Et celui qui m'a aussi bluffé, c'est vraiment Olise face à Mendes. Parce que franchement, j'ai très pu Mendes en aussi difficulté depuis que je le vois au Paris Saint-Germain. Il y a très peu d'ailiers qui l'ont autant travaillé.
Autant
gêné. Jusqu'à la fin, il n'en pouvait plus. Il avait les crampes. T'as vu, le temps de revenir, il s'est dit, bon, moi, je serai prêt pour le match retour. Mais en tout cas, le match aller, je pense qu'Olise, il a fait le boulot. Et Diaz aussi, il a donné du fil à retordre à Marquinhos. Et du côté parisien, pour moi, c'est Kvara. Kvara, comme d'habitude, comme je vous avais dit la semaine d'avant, pour moi, c'est l'homme de la Ligue des Champions du Paris Saint-Germain. C'est le fer de lance.
Il était en mode CR7.
Ah ben là c'était trop. Ah,
parce que c'est la story qu'il a mis juste après. Hein. Lui petit en train de regarder CR7 à la télé en Ligue des Champions. C'est comme ça qu'il se voit à travers. Hein.
Très bon exemple.
Ouais, c'est comme ça qu'il se voit parce que franchement, il a su nous faire lever hein, de notre siège. Ouais, hein. Et vraiment à 1-0, dès que tu vois que le Bayern marque son pénalty, que tu vois qu'il y a une petite réaction côté parisienne, tu te dis ah.
Mais en plus, le match du 2-0.
On n'était pas loin du 2-0. C'est pour ça que.
C'est Safonov qui est.
Oui, c'est pour ça qu'on dit. C'est pour ça qu'on dit à ce moment-là, on se dit ah. Est-ce que c'est le Paris Saint-Germain qui nous a vendu du... Et après, là, on voit Kvara qui rallume la lumière et qui dit « On est chez nous, on repart. » Et là, tu vois toute la meute qui se remet au boulot. Et là, ça repart tout simplement.
Mais par contre, franchement, son enroulé, il est fatal. Parce qu'à chaque fois, il met le même enroulé fort à mi-hauteur. Et t'as l'impression que le gardien, il a même pas le temps de bouger tellement il met une patatasse. Et franchement, c'est maîtrisé. En fait, c'est Olise de l'autre côté. C'est vraiment maîtrisé.
Ça me fait penser à un ancien joueur du Bayern, Arjen Robben.
C'est Robben, mais de la droite.
Voilà.
Et à gauche.
C'était un peu la même chose. Hein. Tu savais ce qu'il allait faire. Tu savais où est-ce qu'il allait la mettre.
Mais il arrive quand même à faire
faut
le geste.
Aller la chercher. Exactement. Et là, après, tout
c'est
simplement.
C'est pas n'importe qui. Hein. C'est Neuer en face de lui. Hein. C'est pas le gardien du coin. Hein.
Oui, après, c'est Neuer.
Neuer un peu,
après, c'est Neuer qui va pas chercher toutes les balles non plus.
Voilà, c'est un Neuer qui est arrivé, qui a fait son nom, qui est dans la légende, et maintenant, ce qui rentre, s'il rentre, si ça vient sur lui, ça vient sur lui. on pense qu'on est plus sans ça.
Mais il y a deux semaines, quand même, le match allé contre le Real, avec la performance qu'il a fait, vous pouvez pas lui manquer de respect comme
deux
ça.
Semaines, il y a trois semaines. Parce qu'il y a deux semaines.
Non, le match allé. Parce que
le match retour, il a pris coup franc. Il a fait une passe dans l'axe. Il a remontré un peu son niveau actuel, quoi.
À Paris, le pauvre, il ne pouvait rien faire. Il a fait zéro arrêt, mais...
On peut le rappeler, hein, contre le Paris Saint-Germain, c'est zéro arrêt. 5 buts encaissés, zéro arrêt. On ne sait même pas la dernière fois qu'un gardien a fait une telle performance en Ligue des Champions. Je pense
Après, il ne peut rien. Après, peut-être le but de Neves, les autres, il ne peut pas.
Mais même Neves, il ne peut rien faire.
Si, Neves, il peut.
Franchement, il ne peut pas. Si, peut. La tête, elle est bien décroisée. Non.
C'est Neuer. T'enlèves... 5 ans à New York, il arrête celle-là.
Ça va très vite.
Je suis d'accord. Je pense qu'en tout cas, il effleure des bouts des doigts. Il la touche, en tout cas.
Je trouve qu'il a mis du temps à réagir.
Pour moi, sur corner comme ça, ça va trop vite.
Après, c'est vrai.
Mais voilà. Mais on est obligé. Voilà, Bambori, donne-nous ton ressenti, toi, sur cette équipe du Bayern. Comme tu disais juste tout à l'heure, il reste tout à jouer. Mais. Je suis obligé de rajouter ça, ce petit moment-là, hein, au moment du 5-2, Bambori. Est-ce que tu peux nous dire comment tu te sentais, si pour toi, les carottes étaient cuites ou si tu y croyais encore ? Honnêtement.
Non. À 5-2, vraiment, je me dis qu'il reste encore du temps, mais je me dis que ça peut basculer des deux côtés.
Parce qu'en vue du match, on est plus proche du 6-2 quand il y a le 5-2. Pour moi, là, je vois les occasions qui suivent derrière. Mais je suis déjà en train de me préparer. Je me dis, mais ce soir, ça va sur les Champs-Élysées. On fête la finale avant l'heure. Pour moi, c'était ça.
Les joueurs l'ont un peu fêté sur le terrain. Kompany l'a souligné. Il l'a redit aux joueurs. Au 5-2, vous avez vu comment ils ont fêté comme s'ils étaient déjà à Budapest. Et vraiment, au 5-2, je me suis dit, ça peut basculer de deux côtés. Mais avec les matchs que j'ai vus cette saison du Bayern, ils ont toujours eu cette mentalité à revenir dans les matchs. On l'a encore vu ce week-end contre Heidenheim ou la semaine dernière contre... Mayence.
Oui, mais c'est sûr, Edenem et Mayence, là, c'est pas le même niveau.
Mais ça montre quand même la mentalité.
Oui, ça montre la mentalité, mais c'est pas le même niveau. Je sais pas si c'est un bon exemple. Par exemple, moi, contre Arsenal, excuse-moi de te couper, mais par exemple, moi, contre Arsenal, quand il y a 2-1, 3-1, pour moi, le Bayern revient. Pour moi, le Bayern revient. Mais... À tout moment, je regarde le match et je me dis, le Bayern vont revenir. Je n'ai aucun doute là-dessus. Et ils ne reviennent pas. Et là, je me dis, ok, mais c'est la Ligue des Champions.
Mais c'était quand même très tôt dans la saison. Mais au fil des mois, on a vu que le Bayern, quand même, ils avaient cette mentalité-là. Et je me disais aussi que c'était cher payé, quand même, parce que le Bayern, sur le match, ils sont au-dessus du PSG. Même si c'est de très peu, le Bayern, ils font un meilleur match.
Ils maîtrisent le match.
Au début, moi, je pense les 15 premières minutes. Moi, je pense
les 20 même.
Les 15 premières minutes. En fait, les 15 premières minutes.
Ce qui a été après, dur moi, pour le Bayern,
ils prennent le bouillon après.
C'est que dès qu'ils en ratent une, le PSG part derrière et ils rattaquent. Et c'est ça qui a été dur pour le Bayern. Et ils ont été
parce que franchement, le
il
Bayern.
Aussi, ils ont... Il peut aussi le Paris Saint-Germain. On pense à Dembélé.
Ouais, mais la majorité, franchement, le Bayern a plus siégé devant le but du PSG que l'inverse.
Oui, mais siégé, mais c'était sentir sans.
Non, après, ouais, il y a beaucoup de situations dangereuses.
Le fait, quand on voit.
Parce que regarde, même quand tu vois Moussiala qui rentre, qui peut frapper, qui ne tire pas.
C'est des situations dangereuses.
Oui, c'est ce que je te dis, des situations dangereuses.
À partir du moment où tu tires, ça devient une occasion. Mais si tu tires.
C'est vrai, c'est précisé, situation dangereuse.
Bien sûr, mais c'est pour ça que je dis une situation. Moi, pour moi, ça me fait penser un peu à Arsenal. Quand ils attaquent comme ça, Arsenal en tout cas l'année dernière c'était que ça. Ils attaquaient, ils assiégeaient la défense et c'était des passes.
Beaucoup
ou trucs, hein, mais.
Ouais, non, ça a beaucoup
c'est
moins.
La situation,
non,
mais.
Là, c'était parce que vraiment là, dans le dernier geste, il manquait cette chose.
Moi je trouve que quand il y a eu 5-2, en fait, ou si le Bayern est revenu à 5-4, c'est parce qu'en fait le Bayern, moi je pense qu'ils avaient pas une mainmise complète, mais. Ils dominaient Paris. Voilà, ils avaient... Parce que Paris, les buts qu'ils ont marqués, c'est en transition et ils ont été létales.
Voilà,
mais quand tu vois le match, la possession, déjà même, Paris, c'est l'une des premières fois qu'ils n'ont pas la possession. Sinon, à chaque fois, Paris, dans tous les matchs, ils ont la possession. Bayern aussi, pareil. Sauf que là, c'était deux équipes qui jouent de la même manière. Et en fait, le fait que le Bayern a eu cette possession-là et est toujours resté dangereux, c'est là, en fait, pour moi, quand il y a eu le 5-2, tu te dis, ah, ils sont peut-être pas moi parce que le Bayern, c'est le Bayern. On sait qu'il lâche pas.
Moi, je vous dis honnêtement, à 5-2, je me disais, aujourd'hui, ça va être un score.
Ah, moi aussi.
Mais même
moi, c'est ce que je me suis dit. Ça va être un score aussi, mémorable. Mais... Jusqu'à ce que, parce qu'il faut le dire aussi, il y a un moment qui change aussi complètement le match. Hein, c'est la sortie de Zaire Emery.
Oui, bah, c'est au coup franc.
Et l'entrée de Fabien Ruiz.
Ouais, coup franc.
Voilà. Et bah, c'est à ce moment-là.
C'est le coup franc, là.
Voilà. Bah, c'est à ce moment-là que le match change. Ouais. À ce moment-là, tu vois l'intensité côté Paris Saint-Germain, elle change.
Baissé,
voilà,
oui,
tu vois que les duels au milieu de terrain, ils ne se gagnent plus pareil.
Ouais.
Voilà.
Oui, c'est vrai.
Donc,
c'est vrai.
Pour moi, ça s'est joué sur ça. Mais... Pour moi, tu laisses Zaire Emery, tu fais rentrer Fabien Ruiz à la 80e minute, je suis sûr que le Paris Saint-Germain gagne au moins deux buts.
C'est vrai, ça.
Après, dans sa tête.
Je suis d'accord avec toi. Hein. Mais d'ailleurs, ça ouvre le perspective pour le match retour. Si on met Zaire Emery à droite et on met Fabien Ruiz au milieu, est-ce que ça aura la même intensité pour le Paris?
Rentrer dans un match et être titulaire, ça n'est pas la même chose.
Ouais.
C'est pas la même chose. Là, en fait,
parce que là, il y avait une grosse intensité.
Voilà, là, Fabien Ruiz est rentré dans un bouillon, dans un tour.
Regarde, même Barcola, il a pas réussi à exister. Tellement il y avait de l'intensité, en fait.
C'est dur de rentrer dans ça.
C'est très dur de rentrer dans ce type de match. On a vu, même côté Bayern, les premiers changements ont eu lieu à quel moment?
Non, c'est la mi-temps. David s'y sort.
À la mi-temps.
Mais il a fait très bonne entrée, Leimer, lui, par contre.
Ouais,
je pensais qu'il allait être titulaire. Je pensais surtout que ça allait être Stanisic qui allait sortir.
Il a fait la petite surprise. Hein. C'était la petite carotte de faire jouer Davis.
Bah après, Davis, il a été
bon.
Moi, je m'attendais à voir
Davis déjà qui rattrape un peu.
Ceux qui lui ont mis 3, ils ont été très durs. Parce que déjà, pour moi, il bloque Doué toute la
première. Et Hakimi aussi.
Doué, il est pas passé.
Avec la vitesse que Davis, il a. En fait, c'est pour ça que je pense qu'il l'a mis, David. C'est pour contrer le côté droit de Paris, là.
Non, je sais pourquoi il l'a mis. Mais Hakimi a bien servi aussi.
Oui, oui.
Il est bien monté. Hakimi, défensivement, on ne l'a pas trop vu.
Et c'est qui rattrape, qui part tout seul au but et qui le rattrape et qui tacle? Il y a un moment.
Non, c'est Upamecano, ça, non?
Non.
Face à face avec Dembélé.
Il y en a un qui part en contre-attaque. Il revient à toute patate. Il tacle, il touche la balle juste avant.
Je pense que c'était au début du match.
Ouais, au début du match.
Je pense que je l'ai vu. Oui, il remonte, c'était sur le côté.
Ouais, sur le côté.
Il partait pas à droite au but, mais. C'est Davis qui revient.
C'est qui partait. Et c'est Davis qui, en fait, il a mis comme Nuno Mendes, il sert au PSG. Si, admettons, Pacho, il se fait passer en profondeur, c'est les ailiers qui vont vite. Parce que si tu mets Laimer et Stanisic, ils sont trop mous. T'as pas vu que Laimer, dès qu'il est rentré, il collait Barcola direct. Il ne le laissait même pas se tourner.
Après, il n'a pas eu d'occasion d'exister aussi, parce que Barcola, dans la profondeur, on sait qu'il fait toujours mal. Mais messieurs, moi, j'aimerais mettre aussi un petit chapeau. Hein. Mm-hmm. On m'a parlé de la performance d'Olise, hein, de Nuno Mendes aussi. Hein. Pour moi, ça a été une bataille qui s'est jouée à très peu de détails. Hein. Pour moi, ça a été du 55-45.
Non, t'es trop gentil.
Non, mais messieurs,
je peux le rejoindre.
Parce que vous, ce que vous ne prenez pas en compte, c'est toutes les fois où il amorce des balles qui sont envoyées vers Olise et il coupe la route.
Ouais.
Combien de fois il a récupéré des ballons comme ça? Au moins 3-4 qui étaient destinés à Olise.
Non, parce que ça, c'est l'effet visuel. Quand sur l'effet visuel, t'as un attaquant et un défenseur.
Ouais.
Et ce qui va rester dans la tête des gens, c'est l'attaquant qui va mettre le défenseur par terre.
Exactement.
Qui a mais quand ça arrive 5-6 fois, tu peux retenir que ça.
Mais on peut pas prendre un duel sur une passe. On peut pas prendre un duel de Nuno Mendes et Olise, par exemple, sur une transversale de Kane. Sur une transversale de Kane, Mendes, il la coupe. il n'a pas pris la balle à Olise. Une fois qu'Olise, la balle allait dans ses pieds.
Mais pour moi, en fait, c'est ça. Moi, je me dis, en fait, c'est un duel de tout. Quand tu cherches Olise et que tu n'arrives pas à le trouver, c'est la même chose. De la même façon où quand tu me dis que Laimer, quand il rentrait, il bloquait Barcola parce qu'il était serré directement.
Mais Barcola, il est jamais passé.
Barcola ne pouvait pas prendre la profondeur.
Olise, il est passé.
Oui, Olise, il est passé. Comme plusieurs fois, il n'est pas passé. Et comme plusieurs fois,
la seule fois où il n'est pas passé en un contre un, c'est quand il a poussé sur la ligne quand il est rentré. C'est tout. Sinon, il est tout le temps passé. Il est tout le temps passé. Et à chaque fois, sinon, c'était Pacho qui coupait. Et à un moment, il y a Marquinhos qui est venu. Même Marquinhos, il n'a pas réussi à l'arrêter.
Et j'ai vu Olise beaucoup dézoner aussi. Bah, son but, même quand il marque dans la truc, il dézonait aussi.
Après, c'est son intelligence.
Voilà,
après,
oui, bien sûr.
Mais en duel 1 contre 1, il est passé à chaque fois. La seule fois qu'il n'est pas passé.
Moi, pour moi, c'est dans leur duel. Ensemble, parce que pour moi, par exemple, quand il y a des balles comme ça, que tu sais que si ça arrive dans les balles dans les pieds d'Olise, ça va faire très mal parce qu'à ce moment-là, quand il fait la transversale,
oui, mais comme il a dit Mambouri, c'est pas un duel ça.
Non, mais pour moi, ça fait partie de leur duel, bien sûr.
Ça fait partie de leur duel.
Comme il a dit, une transversale, attends, est-ce que tu l'anticipes?
Non, mais regarde, excuse-moi, mais si c'est pas le même défenseur, si tu mets Hernandez, il anticipe pas la passe, il attend que ça arrive dans les pieds à Olise. C'est déjà un problème. Même si Olise l'envoie dans l'axe,
c'est pas un duel.
Non, en fait, ces ballons comme ça, en fait, quand t'es défenseur, pour un défenseur qui gagne ce ballon là, c'est un duel gagné.
Voilà, pour moi,
mais contre qui, contre qui?
Non, pour moi, qu'il y ait une transversale ou pas, le but du défenseur, c'est que son ailier ne touche pas le ballon.
Oui. Voilà. Mais les gars, voilà. Duel, c'est précis.
Non, le duel, ça, je suis d'accord.
Un contre un. Si on dit un duel, c'est une personne contre une personne, c'est pas une interception.
C'est pour ça que j'ai pris la globalité de leur défi, où quand Olise marque, etc., et quand Olise dézone, etc., pour moi, ça fait partie de leur duel parce que eux deux, ils doivent être l'un sur l'autre. Olise a pour but d'éliminer Nuno Mendes. Nuno Mendes a pour but que Olise n'influence pas sur le jeu ou n'influence le moins possible.
Oui, mais
pour
moi, c'est influencé le jeu.
Bien sûr, comme Nuno Mendes a influencé le jeu en défense. Voilà. Oh. Pour moi, ça a été comme ça.
Franchement, t'es gentil. Je te jure, t'es gentil.
Non.
En globalité, moi, je dirais que Olise, il a gagné la première manche.
Nuno Mendes habituel.
Non, Nuno Mendes, il a pas démérité.
Non, mais là, t'as reconnu ton Nuno d'habitude, qui met tout le monde dans sa poche.
Mais il est face à l'un des meilleurs ailiers, si ce n'est le meilleur.
Ouais, mais regarde, par exemple, on parle plus de Yamal que d'Olise. Mais est-ce que t'as déjà vu Yamal faire ça face à Nuno sur toutes les confrontations? Mais
parce que ça dépend qui parle. Moi, si tu m'entends m'exprimer, ça n'est pas mon point de vue. Quand tu dis on entend beaucoup Yamal que.
Oui, non, mais je te parle en globalité. Okay. Je te parle en globalité. On entend beaucoup Yamal, mais parce on oublie Yamal vraiment Olise et il a
Yamal,
montré.
Parce que Yamal joue au Barça et c'est la faille. Vous voyez, c'est juste ça.
Oui,
parce
oui.
Que Yamal joue. Voilà, Olise, lui, il va préférer faire une passe décisive ou marquer que de mettre un petit pont. Tu poses la question à Yamal, Yamal, il va te dire Ike Foué.
Oui, oui.
Tu vois la différence. Donc à ce moment-là, excuse-moi, mais. C'est pas la même, voilà, c'est chacun et ses préférences, tu vois. Moi, depuis un moment, je dis Olise, depuis avant même ce début de saison, je vois Olise depuis Crystal Palace. Dès qu'il arrive au Bayern, c'est une explosion. Mais déjà à Crystal Palace,
il envoyait
énormément. Fallait le voir. Et tu te dis, il est en PL. Et quand tu sais qu'il va en Bundesliga, tu te dis, ok, là, tu sais qu'il va exploser parce que la Bundesliga, c'est des jeux beaucoup plus ouverts. Adaptés, oui, et à Crystal Palace aussi. Donc, c'est pour ça que. Non, moi, Olise, je suis un grand fan depuis un grand moment. Oui. Franchement, je le dis. Et je voulais mettre un petit, excusez-moi, mais je voulais mettre un petit, astérix sur la performance d'Oupa. Oupa Mécano, moi, franchement, en ce moment.
Taille patron.
Taille patron.
D'accord.
On suppose, on espère en tout cas qu'il sera là pour. Pour l'équipe de France, et je pense que c'est le défenseur taulier dans l'axe indéboulonnable.
Même Saliba, il est banca à l'Arsenal.
C'est pour ça que ça va jouer entre Saliba et Konaté.
Je pense que Konaté,
il est troisième.
C'est mort pour lui.
Saliba ou pas Mécano.
On sait jamais.
Sur les derniers rassemblements, c'était
franchement, Konaté, il est troisième.
Et ouais, non, franchement, pour revenir sur Olise, j'étais pas un grand fan, moi, d'Olise. J'attendais de voir. Et là, franchement, il m'a bluffé sur cette confrontation.
Il est facile.
Ouais. Non, franchement, ce qu'il a fait, Nuno Mendes, wow.
Et ce qui était bien aussi sur le match, c'était le respect aussi entre les deux équipes.
Oui.
Même à la fin, entre Compagnie et Luis Enrique, ils rigolent un peu après le match. Ça aussi, c'est beau à voir.
Mais surtout les joueurs qui se sont félicités les uns des autres. Pour dire qu'on n'a jamais, en gros, affronté une équipe qui nous a mis une telle intensité. C'est comme Marquinhos, quand il est arrivé en conférence, il a salué tout de suite la performance du Bayern et les joueurs du Bayern, ainsi de suite. Pour dire qu'en gros, mais vraiment, que eux-mêmes, je pense, Même Marquinhos, il a dit, pour parler, il faut que je reprenne mon souffle. Tu vois, tellement que l'intensité, elle était folle.
En même temps, il n'a pas vu le jour face à Luis Diaz.
Oui, non, mais même en dehors de ça.
Il en a sorti quand même quelques
c'était dû à un contre un. C'était dû à un contre un.
Parce que quand même, il a défendu tout le match avec un carton.
Ouais. Dès la 13e, dès le début du match.
Mais il en a sorti une. À un moment, il y avait occasion de but où ça devait même faire but. Et Marquinhos la sort même.
On le compte comme
un. Voilà, on la sort même comme un deuxième arrêt. On dit deuxième arrêt de Marquinhos après celle face à Liverpool. Liverpool. Ah, donc Marquinhos, ouais, voilà, c'est vraiment.
Il s'est quand même démerdé.
Voilà, il s'est quand même démerdé. Après, voilà, en face, t'as eu un Luis Diaz de grand jour et Luis Diaz enfile toujours ses grandes pompes contre le Paris Saint-Germain. On l'a vu d'ailleurs, on a eu l'occasion de le voir en réel au match aller. Hein, Luis Diaz, après, avant le carton rouge qui salit un peu sa performance. Mais en dehors de ça, on a vu Luis Diaz sur son côté. Voilà, Hakimi. Donc là, même avec l'absence de Hakimi, messieurs, comment vous voyez les choses?
Non, c'est Zaïre Emery qui va être latéral.
Oui, bien évidemment. Ouais,
Non, ça va être dur, je pense.
Ouais, ça va être très dur.
Si ça part comme le match. Après, je sais pas comment les entraîneurs ici vont changer, mais je pense pas. Ça va être encore du 1 contre 1. Après, des deux côtés, que ce soit Paris côté Bayern, c'est dur.
Pour moi, ça va être plus dur pour Luis Diaz si c'est Zaïre Emery parce qu'il monte beaucoup moins.
Oui, il monte beaucoup moins. Ouais.
Je suis d'accord. Moins,
il est robuste, il est
très solide. Ouais, il est costaud. Ah ouais, il m'étonne.
Il
laisse des boulevards derrière lui.
C'est ça, exactement.
Et en gros, c'est ce qui laissait Marquinhos en duel.
C'est exactement ça. Et donc là, avec Zaïre Emery, moi, je dis que c'est un mal pour un bien. Offensivement,
tu as bloqué le couloir.
Offensivement, tu as quelque chose dans moi. De moins, c'est
ça.
C'est sûr.
Mais de toute façon, ça va être que de la transition.
Voilà. Ouais. Mais défensivement, après, t'as Zaïre Emery qui peut même se projeter aussi. Hein, parce que Zaïre Emery,
au milieu de terrain,
quand on le voit, il se projette.
Et il peut rentrer au milieu aussi.
Ouais, aussi. Donc.
Non, après.
Après, au milieu de terrain, Fabien Ruiz.
Ouais. Ouf.
Après, faut demander à voir.
Faut voir.
Ou tu mets Mayulu ?
Ouais.
Non, moi je pense que. Non, tu laisses Ruiz. Mais de toute façon, il va jauger dès la première mi-temps, il va voir dans quel rythme il est. S'il n'est pas dedans, il va vite sortir.
Bah après, franchement, ce match, ça va être du 50-50, je pense.
c'est du 50-50, de toute façon.
Franchement, c'est difficile de donner un pronostic, mais ça peut tourner dans un sens comme dans un autre, en vrai.
Il y aura des buts. Tout ce que je sais, c'est qu'il y aura des buts.
Et moi, je pense que ça va jouer à rien, en vrai. Un détail ou un truc à l'équipe qui est la moins concentrée ou qui fait la plus efficace, qui fait la moins d'erreurs, va passer.
Merci Omar. Moussa ?
Ouais, non, je pense que ça va être encore un très très grand match. Après, avec la blessure d'Hakimi, je pense que le jeu il va basculer de l'autre côté. Et pour moi, si Nuno Mendes veut se dépêtre de Olysée, il faut qu'il le fasse défendre. Et en gros, que comme on a vu au match aller, c'était plutôt Hakimi qui montait et Nuno Mendes qui est resté. Là, il faudrait que ce soit le contraire. Mais bon, après ça, c'est moi, je suis là, je ne suis pas sur le terrain, donc on verra comment ça va se passer. Mais ça, moi, je pense qu'on va encore avoir les yeux bien ouverts pour ce match-là et il ne faudra pas cligner des yeux. Ah, ça va,
il
ne
faudra pas cligner des yeux. Hein. Belle transition d'ailleurs, parce qu'on a cligné un peu des yeux pour le match du lendemain entre Arsenal et Atlético de Madrid. Hein. C'était une histoire de pénalty, messieurs. Un but partout, hein. Alvarez sur pénalty et Gyökeres aussi sur pénalty. Messieurs, tout reste ouvert aussi au match retour. Ouais. Ça va se jouer à l'Emirates Stadium. Qu'est-ce que vous en pensez? Alvarez peut-être blessé, ça n'est pas sûr. On dit... Finalement, il sera de retour.
Franchement, moi, pour le match retour, je vois Arsenal quand même passer avec l'avantage à domicile. Ils sont très, très forts quand même chez eux. Et je l'ai vu aussi contre le Bayern, notamment en phase de ligue.
Mais après, contre Sporting, on n'a rien vu, quoi.
Ouais, mais ils gagnaient déjà 1-0.
Ouais, mais donc juste en 0, en fait, tu sais qu'à la 90+5, tu peux te faire égaliser et tu vas au prolong.
Ouais.
Donc, tu es obligé d'assurer pour
Ils avaient aussi les tracas de la Première Ligue. Ils ont pris leurs 6 points.
Oui, là, ils ont
donc, ils ont l'esprit libéré. Imagine ce soir City, ils font pas le job, ils auront encore l'esprit encore plus tranquille.
Ouais,
et moi, comme je vous avais dit la semaine dernière, je sentais qu'Arsenal allait chercher le nul. Et
après,
à domicile, ils vont faire le taf.
Après, c'est pas passé loin parce que Lookman, il en loupe des occasions.
Oui, après, ça fait
Griezmann,
de la Ligue des Champions.
C'est ça, mais
moi, je l'ai senti.
Moi, je prends la Tico Madrid.
Il a eu un petit pénalty aussi.
Oui.
Mais il a été refusé.
Il a été refusé.
Mais moi, je vois Arsenal passer en tout cas.
Pareil.
Idem aussi, je pense qu'ils vont faire le taf à domicile. Après, c'est pas un mauvais résultat pour Arsenal, moi, je pense. Hein. Aller chercher un nul à l'Atlético, c'est faut le faire. Hein. C'est pas aussi.
Fallait juste pas perdre.
Voilà, faut pas perdre, en fait, parce que pour moi, ils sont dans une configuration, je dirais pas idéale, mais ça va. Je pense qu'ils sont en bonne posture.
Ils sont pas besoin de se presser pour aller chercher le résultat. Ils attendent le petit coup de pied arrêté, le coup de tête, et voilà, après, ils ferment.
Ok, donc pour la Ligue des Champions, match retour, voilà, Arsenal hein, sur corner. En tout cas, c'est ce qu'on pense. Wow. La AS Roma qui sont en train de gifler la Fiorentina 3-0.
Malen, il a marqué ?
Encore lui ?
Je sais pas, je demande.
Non, il n'a pas marqué.
Il n'a pas marqué.
Donc tu sais que son but va arriver. Ah, voilà. Donc ça va faire sûrement. Un peu plus lourd, mais bon, cette équipe, on va y revenir de toute façon après avec la Fiorentina, mais cette équipe, pour l'instant, qui ont assuré le maintien, hein, c'était le but, hein, je pense, que cette saison. Il n'y a pas grand-chose en plus. Messieurs, voilà pour la Ligue des Champions, on va poursuivre avec la Ligue Europa. La Ligue Europa, Crystal Palace, qui se sont imposés face au Shakhtar Donetsk. Hein, 3-1, hein, Crystal Palace, eux, qui ont pratiquement un pied en finale, hein, on peut le dire. Fribourg qui s'incline à Braga, 2-1. Hein, en toute fin de match, Braga ont réussi à prendre l'avantage. Côté Aston Villa s'incline face à Nottingham Forest, hein, 1-0, et devront renverser la vapeur au Villa Park. Ça va être compliqué, hein, parce que Nottingham Forest, là, ils sont libérés, on dirait, un peu avec leur maintien. Ils savent qu'ils ont que ça à jouer. Attention, même si Unai Emery est le spécial Ligue Europa.
Ah, mais là, Aston Villa, moi, je me rappelle, j'avais dit qu'Aston Villa, pour moi, ils vont s'en sortir. Mais ce qu'ils ont fait ce week-end, en fait, ils sont dans une mauvaise passe, là. Depuis un bon moment.
Ils ont fait,
Tourner ?
Ouais, ce week-end, ils ont fait tourner. Parce qu'ils ont un petit matelas pour la Ligue des Champions. Donc,
ça se rattrape derrière, attention. Hein.
Ouais, mais ils ont un petit matelas, donc il a fait tourner pour la Ligue Europa.
Après, Nottingham aussi, tout à l'heure, il a fait tourner.
Oui, il a fait tourner. Nottingham, il a mis
quasiment. Ils ont quand même gagné.
Ils ont gagné. Alors que Chelsea, ils ont mis toute l'équipe A.
Nottingham, c'était plus pour le maintien. Et là, maintenant, ils sont à 3 journées de la fin. Ils ont 6 points d'avance sur la zone relégable.
Mais t'imagines, ils jouent le maintien, ils ont fait tourner.
Après, leur adversaire.
Ils ont préféré la Ligue Europa au Manchester.
Pas dans
tous les
championnats que ça se passe comme ça. Hein.
Bah franchement, Chelsea sont en perdition.
Ils sont en perdition.
C'est ça, en vue de l'adversaire en fait. Ouais. Ils ont préféré. Bon, ils ont fait tourner.
Regarde les minutes jouées des joueurs. Il y a que Ressus, c'est tout. Awani, il joue même plus là. Awani, le milieu de terrain, il n'y en a aucun qui a beaucoup de minutes.
Pourtant, il a des bonnes stats, Awani.
Ouais, il a mis que 2 buts. Il a 3 buts.
Là, il a mis 2 buts. Ouais. Le match d'avant, il est rentré 3 minutes, il a fait une passe D. Le match d'avant contre Tottenham, il est rentré, il a marqué.
Ouais. Mais il a pas beaucoup de temps de jeu.
C'est pour ça que je me dis, après ces 3 matchs-là, normalement. Hein.
Ouais, mais l'autre, c'est le bûcheron. Tu l'enlèveras pas. C'est comme un Rondon à l'époque. Là. Salomon Rondon, c'est des mecs qui peuvent te marquer à tout moment. Ils pèsent sur la défense. Non, il va pas bouger.
Ouais, il va pas bouger.
En tout cas, Aston Villa qui ont 6 points d'avance sur Bournemouth, hein, sur la Ligue des Champions, hein, et qui sont à égalité de points avec Liverpool. Mais on va parler de la Première Ligue, messieurs. Du coup, là, on va juste rester sur ça. Fribourg-Braga, 2-1 pour Braga. Du coup, match retour à Fribourg.
Ouais, ça va être chaud.
Non, ça va être dur pour les Portugais. Hein.
En plus, ils ont perdu Horta. Il s'est blessé. Je ne sais pas s'il sera là au retour, mais ça va être chaud.
Après, perso, je mets une pièce sur Fribourg.
Pareil.
Puis c'est chez eux.
Ouais, moi, j'avais dit, comme la semaine dernière, j'avais dit Braga à domicile, Fribourg chez eux.
Et Aston Villa, Nottingham Forest, pour vous, Aston Villa ne renverse pas la vapeur ?
Si, moi, je dis Aston Villa passe. Aussi,
ça se joue à Villa Park ?
Ouais, là, on
retourne. Ouais, pour moi, ils vont retourner la situation.
Non, pour moi, c'est Unai Emery, il a une compétition.
C'est vrai.
Voilà, il devient Real Madrid, c'est la Coupe de l'UEFA, donc je pense qu'il va...
Ils peuvent s'en sortir, c'est vrai.
Il va s'en sortir.
Pour la Conference League, hein, comme on disait, Crystal Palace qui se sont imposés face au Shakhtar Donetsk, 3-1. Hein, on va dire que les carottes sont cuites.
À l'extérieur.
À l'extérieur, là, le match retour, ça va jouer à Crystal Palace. Ça va être compliqué, en tout cas, pour les Ukrainiens. Rayo Vallecano, qui se sont imposés face à Strasbourg, 1-0. Un match assez pauvre, en tout cas, dans l'ensemble. Hein. Emega, qui a été blessé apparemment, qui ne sera pas de retour apparemment.
Il n'a pas existé sur ce match-là. Hein.
Non, je pense bah, un peu dans les duels, mais offensivement, ouais, offensivement oui. En fait, il n'a pas été servi aussi. Ouais. Hein. Offensivement, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu offensivement.
Même
il y a eu
Rayo...
une occasion à un moment, même on demandait pénalty, pas pénalty. L'autre, il essayait de mettre la tête, mais là, il doit donner son corps à la science. Pour moi, il va à fond.
Il doit mettre la tête.
Voilà, il met la tête carrément. Soit il y a but, soit il y a pénalty. Mais il la met pas. Voilà, c'est la seule grosse occasion dont je me rappelle côté strasbourgeois. Après, c'était
après assez côté,
Godot a fait pas mal de mal sur le côté.
Oui,
mais après.
Après, est-ce que le Rayo part pas avec des regrets quand même?
Ouais, parce que franchement, ils auraient pu en mettre deux. Hein.
Ouais, mais franchement.
À la dernière minute, la
En vue de la première mi-temps, tu te dis que déjà, si Strasbourg ne mène pas, c'est bien.
Bah après, là, ils vont jouer chez eux. On sait qu'ils ont un bon public.
Ouais, ils peuvent changer la donne. Ouais. Parce que le Rayo, c'est bon à la maison. Après, à l'extérieur, je sais pas ce que ça vaut.
Ah, je mets une petite pièce sur Strasbourg.
Strasbourg, ils peuvent inverser la tendance.
Pardon, messieurs. Mais sans Emega et sans Banicelli, pour vous.
Ils ont des bons joueurs.
Ils peuvent le faire, je pense qu'ils peuvent.
Ok, messieurs. Bah, du coup, on va se faire une petite virgule, messieurs, avant de revenir avec Jason.
La Serie A.
La Serie A, exactement. L'Inter de Milan, qui ont été sacrés champions. Thuram, j'allais dire Lilian Thuram, mais c'est Marcus Thuram, lui aussi, qui a été buteur avec l'Inter. Et qui sont finalement champions, hein, ça, on attendait ça, et qui sont champions trois journées avant la fin. On y revient juste après. L'AC Milan s'incline 2-0 face à Sassuolo, hein, et devront gagner des points pour la fin de saison, hein, pour préserver leur place en LDC, messieurs. Ça ne va plus de côté AC Milan, hein, c'est très difficile. La Juventus aussi qui enchaîne un match nul, hein,
face à Hellas Vérone,
un but partout. Un retour de Vlahovic, hein, qui est buteur. Voilà, messieurs. L'Inter qui gagne sa 21e Scudetto en s'imposant 2-0 face à Parme. Napoli tenu en échec 0-0 face à Como. Messieurs,
Moi, le titre mérité pour l'Inter. Hein.
Ouais,
le titre
félicitations mérité. À l'Inter.
Bah, pour moi, c'est en Italie, c'est la plus belle, c'est la plus belle équipe. C'est l'équipe qui est la plus stable, qui fait des parcours en Ligue des Champions, qui a même même si c'est vrai que c'est une équipe un peu vieillissante, mais qui ont quand même des très bons éléments. Hein, Lautaro devant. Non, franchement, c'est un beau champion d'Italie. Et après, par contre, pour les autres, c'est là où c'est un peu compliqué en Italie. C'est que, bah, hormis l'Inter, les gros ne répondent pas, en fait.
Ouais, après, moi, à titre personnel, quand même, je tiens à féliciter l'Inter. Parce que je pense que c'est l'équipe la plus cohérente, même si, voilà, on les a un peu... descendu, c'est à leur élimination face à Bodoglim ou leur finale perdue face au PSG. Faut quand même cette génération emmenée par Lautaro Martinez, Thuram, Hakan Çalhanoğlu, ils ont un sacré palmarès et ça faut le souligner. Deuxième élément aussi à souligner, c'est rare que Antonio Conte il perd un titre en championnat comme ça en Italie notamment. Et voilà, ça rend plus important encore la performance de l'Inter.
Merci. AC Milan qui sont dans le trou noir.
J'ai vu qu'ils voulaient vendre aussi Leao pour même pas 40-50 millions.
Est-ce qu'il en vaudrait plus aujourd'hui?
Non.
Est-ce qu'il est encore concentré au foot même?
Il rappe peut-être, il fait des. Il rappe.
Il voit des musiques qui sortent par-ci, par-là.
C'est dur. Tous les concurrents de l'Inter, bon, Naples, ils ont un peu suivi un moment. Ils ont laissé tomber.
Ah, l'effectif, il y a eu trop de blessés.
Il y a eu beaucoup
de blessés côté les David Neres qui étaient bons après aussi, mais qui se sont blessés derrière. Il y a eu vraiment énormément. Ils n'ont pas été épargnés par les blessures, le Napoli. Et on sait que c'est bien dur de faire un back-to-back pour la Sudetto aussi en Serie A. AC Milan.
Non, c'est triste.
L'arrivée de Rabiot et de Modric. Hein, qui essayent de s'en sortir plus ou moins.
Ils vont terminer pour la course à la Ligue des Champions s'ils le peuvent, mais c'est tout, quoi. Parce que le nombre de joueurs qu'ils ont recrutés et qui ne font pas la différence, c'est incroyable. En fait, ça me fait penser au Manchester de quand ils étaient en difficulté. Ben, le Milan, ils ont repris le flambeau. C'est que ça recrute à tout va des joueurs à des millions comme pas possible et sur le terrain, ça ne répond pas.
La Juventus aussi, pareil.
Voilà,
combien d'attaquants ils ont?
Ils ont Openda, David. Ils ont David, ils ont Vlahovic,
Milic.
Zegrova. C'est trop.
Et pourtant, Zegrova, quand il est allé, il était
combien
bon. Ouais, il a disparu du radar totalement. J'ai pas compris.
C'était pas blessé. Ça,
ouais, c'est blessé, mais.
Trop d'attaquants aussi.
Quand même.
Bah après, quel talent. Même Openda aussi. C'est juste à dire Campeone. Campeone. Mais c'est mérité. De toute façon, depuis le début de l'année, je le dis, les concurrents, ils suivent pas.
À part comme qui met d'éclaircie, mais.
Et encore.
Mais sinon, le reste.
Sinon, le reste, c'est coussi, coussa.
Après, t'as une bonne saison de. Bon, la F-Roma.
Mais par contre, l'Inter, si, continue. Ouais. Ouais, la Roma, oui, ils sont bien
peut-être
remontés.
Peut-être qu'ils vont monter un prochain un peu en puissance.
Mais par contre, l'Inter, s'ils auraient continué en Ligue des Champions, je ne pense pas qu'ils prennent le titre. Parce que pareil, justement. Avec le nombre de blessés, de joueurs, l'effectif, il n'est pas assez étoffé pour jouer sur les deux compètes. Parce qu'ils auraient perdu certainement beaucoup de points, beaucoup de matchs nuls. Mais c'est ce qui fait que l'année dernière, tu perds le titre à la fin face à Naples.
Ouais, c'est vrai.
Du coup, messieurs, assez logique, Inter qui ont été champions. Marcus Thuram qui a encore marqué, lui qui continue à performer avec l'Inter depuis le match avec l'équipe de France, ça l'a libéré.
Il continue sur sa lancée.
Il revient bien. En plus, j'ai vu que sur Instagram, il a fait un petit clin d'œil à Kobe Bryant dans sa célébration du Scudetto. Donc voilà, c'est une bonne augure en tout cas pour le mondial.
C'est une bonne augure pour le mondial, en tout cas s'il est convoqué. Hein, pour l'instant,
ça y va. Il y sera.
Du coup, messieurs, la Juventus, un but partout, comme on l'a dit. Vlahovic qui signe son retour avec Hellas Vérone. Hein. Napoli qui se sont quittés 0-0 face au Como. Atalanta aussi qui ont du mal à terminer la saison, hein, 0-0 face au Genoa. Hein. Est-ce que s'ils ont laissé tomber tout simplement?
Il y a tellement d'équipes qu'on laissait tomber que le championnat d'Italie, on le voit que par l'Inter. Franchement.
Je pense que le cycle de l'Atalanta, là, ils ont passé leur cycle.
Ouais, de toute façon, dès que Gasperini est parti,
il a quand même fait 8 ans ou 9 ans là-bas, je crois.
Et là, si tu remarques bien, la Roma, Gasperini, il était en problème avec Ranieri. Ils ont fait le choix de Tej Ranieri. Ils ont dit Gasperini, c'est lui la pierre angulaire du projet. Donc, ils n'ont pas fait l'erreur de garder Ranieri et de faire partir Gasperini. Et ça marche.
Et messieurs, je voulais faire une petite aparté aussi sur un certain joueur, hein, Christopher Nkunku. Messieurs, qui a du mal avec l'AC Milan, hein, lui qui était international, qui est international français d'ailleurs, hein, qui est toujours international français, mais qui passe un peu sous les radars. Voilà, ça va être très difficile pour lui d'accrocher quelque chose.
Il aura rien du tout.
Mais en fait, quand tu vois sa courbe, par rapport au club qu'il a fait, ça, c'est plus une courbe descendante. Là.
Ah, il devrait quitter l'AC Milan. Ça n'est pas le bon club pour lui.
C'est même pas le bon championnat, tout court.
Ouais, ouais.
C'est en pas le championnat pour lui. Oui, qui retourne en Allemagne, qui est à Dortmund.
Ouais, Dortmund, je le voyais bien à Dortmund, c'est vrai.
Un truc comme ça, où lui, il a besoin d'espace. Il a fait l'erreur d'aller en Angleterre. C'est pas un jeu pour lui. C'est pas, ça ne met pas en valeur des joueurs comme lui qui ne savent même pas s'ils sont attaquants, 9,5 ou 10. Donc, le meilleur, c'est de jouer en Bundesliga. Il y a des espaces. Voilà, tu marques des buts, tu te fais plaisir.
Après, en Espagne aussi, peut-être.
Ouais, en Espagne. Après, il faut voir. Mais comme il est technique, des championnats où il y a l'espace. Où il n'y a que la bagarre. L'Italie, c'est que des blocs bas. C'est pas fait pour lui, ça. C'est pas un renard des surfaces. Non, mais en tout cas, il s'est tué. Il a fait deux mauvais choix et il va le payer cash.
Bah, son premier mauvais choix, c'était Chelsea. Mais après, Chelsea, c'était pas si mal que ça. Bah, après,
on ne le faisait pas confiance.
Voilà, exactement.
Il joue très rarement.
Il est toujours sous contrat, d'ailleurs, avec Chelsea.
C'est un prêt ?
Il me semble, non ?
Je sais pas.
Ils ont tellement de prêts, Chelsea, aussi.
Il me semble que c'est un prêt parce qu'il venait d'arriver quand même dans cette équipe-là. Du coup, si tu me dis que...
À Chelsea, ils sont capables de faire tout et n'importe quoi.
Retourne à Chelsea, est-ce que c'est la bonne solution pour lui ? Là. Bon, mec,
il a été transféré. Il a été acheté en 2023 pour 60 millions.
60 millions.
Oui, de Leipzig. Ah, mais attends, il sort de Leipzig.
Non, je crois de Chelsea à Milan.
Oui.
Non, de Leipzig à
Chelsea. Ah oui, c'est normal.
Et après, de Chelsea à AC Milan, 37 millions.
Même là, ils ont pris une douille.
Ouais, non, c'est cher.
Et là, ils sont à peu près à 27,4 millions. C'est un joueur qui a 28 ans. On sait de quoi il est capable, honnêtement. Et à Chelsea, si vraiment il n'avait pas tant de jeux, sinon quand il jouait,
il était bon.
Donc c'est pour ça que tu ne pouvais pas te dire. Après, moi, je pense qu'il arrive dans un contexte où Ouais. C'est très difficile.
Non, après, à Chelsea...
Comme Youssouf Fofana aussi. Hein.
Oui, lui aussi, il a complètement disparu. Et lui, là, par contre, il a signalé.
Oui, il a dit.
Lui, il a carrément dit.
Il a dit, je suis dans un championnat, voilà, on ne voit pas. Et au final, ça ne
pas, pas, pas diffusé ouais. En France, oui. Pourtant, il faisait des bonnes performances. En tout cas, au moment ouais, de ça. Au moment de ses dires. Après.
Mais Nkunku, c'est que quand il est à Chelsea, il y a Palmer qui éclate tout. Oui. Donc après, il n'y avait pas match.
Maintenant, Palmer, il éclate plus rien du tout.
Rien, il n'y a plus Nkunku.
Même les pénaltys, il n'arrive plus à les mettre.
C'est ça. Il a raté un péno, ouais.
C'était compliqué en tout cas. Voilà pour la Serie A, messieurs. Hein, du coup, Napoli, l'Inter premier avec 82 points. Naples deuxième avec 70 points. AC Milan troisième avec 67. Juventus quatrième avec 65. AS Rome qui reviennent à un petit point hein, de la Juve et qui sont passés devant Como. Hein, eux qui sont en train de gagner 3-0. On pense que le match est déjà plié. L'Atalanta septième avec 55 points. L'Atalanta qui, ça sera plus possible d'accrocher une place européenne. Hein. En tout cas pour les six premières places, non, ça va être très compliqué. Il faudrait pour eux que l'Inter gagne la coupe pour qu'ils puissent bénéficier d'une entrée en Conference League. La Lazio, eux, qui sont complètement lâchés, hein, 8e, qui ne joueront absolument rien.
Pourtant, il faut une fin de saison en pétard, la Lazio.
Oui, mais c'est un peu trop tard.
Ouais.
Voilà, c'est trop tard pour obtenir quoi que ce soit. Voilà. Mais voilà pour la Serie A, messieurs. On va se faire une virgule avant de revenir avec le club de monsieur Omar.
La Liga.
La Liga, exactement. On revient juste après. La Liga, le FC Barcelone qui s'impose 2-1 face à Osasuna, hein. Peut-être le dernier but de Lewandowski sous les couleurs en Europe tout simplement, même on peut le dire, hein. Peut-être l'un de ses derniers buts en Europe, en tout cas lui qui a encore marqué ce week-end, hein. Ce qui a permis au FC Barcelone de se rapprocher un peu plus du titre, mais qui devront patienter car le Real Madrid se sont imposés 2-0. Un Real Madrid sans Eder Militao, sans Vinicius et sans Kylian Mbappé et sans Arda Güler, je voulais dire, qui ont réussi à s'imposer 2-0 face à l'Espagnol Barcelone, et eux qui devront jouer le Classico. Il faudra juste un petit match nul pour le Barça pour tout simplement être sacré champion, messieurs.
C'est pour le Barça, c'est du tout droit, on va dire ça comme ça. Ils ont
plus de marché
arrière, là. Ah, là, et ils ont une main et quatre doigts sur le titre de champion d'Espagne. Et je vois pas comment ça pourrait leur échapper.
Le seul truc historique qui peut se passer, c'est que le Barça soit champion face au Real. C'est jamais arrivé, je crois. Pendant un match, Real Barça, et que le Barça à la fin de ce match soit champion.
C'est pas l'année dernière, c'était pas arrivé.
Non, c'est pas. Il y a juste ça, ce qui peut se passer, mais sinon...
Ouais. Je pense que le Barça seront champions.
Ouais. Oui, c'est sûr qu'ils vont être champions.
Ils vont être champions, pour moi, c'est même pas un débat. Après, est-ce que le Real pourra sauver un petit peu, même s'il n'y a rien à sauver de leur saison, en battant le Barça
ça peut quand même montrer un beau match. Hein.
Ouais,
ça laisserait une dernière bonne image.
Ouais, ça laisserait une dernière
un classico
bonne
quand même, un classico, ça joue.
La seule chose qui anime le Real en ce moment, c'est le fait qu'il regagne parce qu'il n'y a pas Mbappé.
Oui, on entend.
C'est la seule chose qui peut permettre encore de garder la flamme s'il continue à gagner et que Mbappé n'est pas là. Ça va ranimer le truc.
Moi, je pense qu'on en fait trop sur le cas Mbappé. J'ai l'impression qu'on cristallise trop le problème autour de lui. Pour moi... En tant que supporter du Real Madrid, peut-être je suis un peu subjectif dans ma manière de parler, mais quand tu ne remplaces pas des Luka Modric, quand tu ne remplaces pas des Toni Kroos, quand tu as des joueurs qui sont tout le temps à l'infirmerie, j'ai vu que Benjamin Mendy... Il s'est re-blessé et le mec, je crois qu'un match sur deux, il est jamais là. Ouais. Alors que quand Ferland Mendy, il est là, on l'a vu même contre le Bayern, il a fait un excellent match. Et le Real, pour moi, il y a trop de blessés, il y a trop de...
Ah, c'est un tout.
Ouais, c'est un tout. Et en fait, bon, Mbappé cristallise un petit peu ça aussi parce que, bon, il arrive avec cette étiquette au Real Madrid, de superstar. Et de toute façon, il le sait. Si ils échouent, ils vont dire, avant Mbappé, on gagnait, là, on ne gagne plus. Et pour moi, c'est un bouc émissaire. Après, je dis pas qu'il a tout bien fait parce qu'il y a des matchs, il aurait pu mieux faire. Mais pour moi, il y a plusieurs facteurs qui expliquent la mauvaise saison du Real et pas simplement la performance d'Mbappé parce qu'il quand même met 41 buts.
Mais après ça, comment tu Tu m'expliques, toi qui es supporter, qui suit tous les matchs, que quand ils jouent, vous ne gagnez pas. Et quand ils ne jouent pas l'équipe ça, elle est libérée.
Quand ils jouent, parce qu'il ne faut pas oublier, ils ont gagné quand même pendant longtemps.
Oui, non, mais non. Je parle depuis, on va dire là, depuis une dizaine de matchs.
La différence, c'est que quand il ne joue pas, quand il n'est pas là, il y a plus d'équilibre.
Ouais.
Et quand il est là, les autres autour ne sont pas bons.
Donc il déséquilibre l'équipe.
Moi, pour moi, oui.
Non, après,
c'est pas lui, il n'y a pas que lui comme fautif. Ouais. Mais il déséquilibre l'équipe totalement.
Non, après, pour moi aussi, c'est. En fait, c'est aussi la compatibilité au sein de, au sein de l'équipe. C'est que, en fait, là où moi je trouve, par exemple, par rapport à Gonzalo Garcia, quand on l'a vu hier, c'est que. Dans sa position de neuf, des fois, il ne sait pas
comment se placer.
Ça
fait un moment qu'il ne joue plus trop. Lui.
Bah oui, ouais. C'est dur d'avoir des repères.
Parce qu'au début, il avait des repères et il faisait le taf.
Ouais.
Et une fois que tu es à la cave 5 mois, on te dit tu réexistes sur un match. Mais c'est compliqué. Hein.
Les actions d'hier, les deux buts.
Oui. Non, mais après, d'un autre côté. Ouais.
C'est ça qu'il faut.
Ouais,
mais malheureusement.
Après, moi, non. Après, je suis pas d'accord. Hein. Même là, quand je vois aussi Carreras, aussi, c'est pas trop ça. Alors que le mec, annoncé comme un crack.
Après, il faut lui laisser le temps, sa première année aussi. Ouais. C'est là où on est peut-être dur.
Oui.
On reste sur Mbappé. Le problème, c'est pas que lui. Il y a d'autres, comme tu as dit, il y a un manque de milieu de terrain, il y a beaucoup de blessures. Mais quand même, il est quand même fautif. Il faut pas dire qu'il est tout. Il est quand même fautif.
Pour moi, c'est la même chose. C'est pas 100% lui, mais comme plus de 50%, je pense que c'est le problème. lui et Vinicius, ils peuvent pas jouer ensemble.
Ils sont incompatibles. Incompatible.
Là oui, là je
et ça c'est un problème pour vous, ça.
Non, là je suis d'accord. En fait, là où je pense que Florentino, il a un petit peu trop doublé les postes sur ce côté-là. En fait, c'est le même profil. Pour moi.
Comment tu veux t'en sortir?
Soit tu vends Vini, tu mets Mbappé à gauche et tu mets.
Il a re-signé son contrat.
Ouais, non mais.
Non, Mbappé si, il peut plus jouer.
Et si Omar, toi en tant que supporter madrilène, si t'étais Florentino, tu vires. Mbappé, tu laisses Vini ou tu vires Vini et tu laisses Mbappé?
Non, je vire Vini.
Vini Vini qui sort du mal de l'équipe.
Son équipe autour de Mbappé, après c'est son choix.
Voilà, c'est son choix. C'est son choix, monsieur. C'est ça, son choix.
Je vire Vini, même si voilà, il nous a fait gagner la Ligue des Champions 2024. Même si pour moi, c'est
plus... Mais t'en veux plus maintenant, t'en veux plus.
T'en veux plus?
Non, j'en veux plus.
Aïe.
Je sais que Mbappé, ça peut être l'homme de la situation.
Pour toi, Mbappé, c'est... Est-ce qu'il peut être leader comme Vinicius l'a été?
Oui, leader technique.
Mbappé?
Bien sûr.
Technique. Mais est-ce que le Real a besoin d'un leader technique?
Bien sûr.
Bien sûr.
Non, ils ont quand même un leader technique. Mais eux, ils ont besoin d'un leader qui monte vraiment. C'est ça qui leur manque.
Après, c'est pas Vini qui est ça.
C'est pas Vini qui est ça.
C'était pas Vini.
Ouais, mais il y avait d'autres cadres.
Non, il y avait d'autres cadres. Ouais. Mais Vini, l'année qu'il fait là.
Oui,
dès qu'il y a un but, Vini, il est là.
Oui, mais il y a qui assure derrière?
Là, il y a Bellingham. Après, il y a Militão. Non, en cadre, de toute façon, t'avais Carvajal. T'avais Kroos.
Et Modric.
Carvajal, Kroos. Ouais, mais... Modric, même s'il était remplaçant, mais ça reste un cadre. Après, t'avais Courtois.
C'est ce manque-là. Je pense que même si t'enlèves Mbappé,
tu
retrouveras pas.
Si.
Avec le milieu actuel.
Avec le milieu actuel. Parce que regarde, Bellingham. La meilleure année de Bellingham, c'est quoi? C'est quand il vient d'arriver. Mais c'est quoi son poste à Bellingham?
Ouais, mais à la base, c'était pas son poste.
Non, son poste, c'est milieu. Il est milieu de terrain.
C'est un 8.
Et lui, il plonge.
Oui, mais cette année-là, il était quasiment 9-10.
Voilà, mais depuis, il ne peut plus faire ça.
Ouais, mais même dans tous les cas, pour moi, Bellingham, c'est pas son poste.
Oui, mais pourquoi il peut pas le faire ça?
Ouais, mais
parce qu'il y a un 9 devant lui.
Oui.
Mais maintenant, là, t'enlèves le 9. Tu fais une attaque Vinicius, Diaz, Bellingham en milieu à 4. Tu verras, ça va être la même chose.
Ah,
Bellingham, il va rentrer dans la surface et il va mettre.
Pour moi, Bellingham, cette année-là, il s'est inventé une vie.
Ah, mais c'est sa meilleure saison quand même.
Oui, mais il s'est inventé une vie parce qu'à la base, il est venu en tant que numéro 8.
Ça, je suis d'accord avec toi.
On l'a mis par défaut à ce poste-là.
Non, en fait, on s'attendait pas qu'il fasse ça.
Ben oui, on l'a mis par défaut.
Je suis d'accord. Mais le problème, c'est que maintenant, lui, il a goûté à ça. Il va plus refaire le boulot.
À la base, c'est pas son job.
Oui, mais là, maintenant.
À la base, c'est pas son job.
Lui, il voit quoi de sa carrière?
On a recruté un mec qui fait ce job-là.
Comme
on a dit, il a mis 40 pions.
Qui fait ce job-là, il le fait pas bien correctement.
Mais il a mis 40 pions.
Oui, mais 40, ça suffit pas.
Mais tu veux combien?
Non, ça suffit pas. Non, moi, je veux pas que.
Non, en fait,
il met 30 buts. Les autres, ils mettent 20 buts, c'est bien. Lui, il met 44 buts, les autres, ils mettent 0 buts.
Non, Moussa, lui, il veut une saison à la Messi.
Vinicius a mis plus de 20 buts cette saison.
Non, oui, mais les 20 buts, là, c'est souvent quand Mbappé n'est pas là.
Mais non, non.
Ah, si. Là, il a mis 3 doublés d'affilée, là. Contre le City, hier, et une autre encore en championnat. Il a mis 3 doubles, ça fait 6 buts déjà. Ça fait 6 buts.
Non, mais moi, je pense que...
Et à chaque fois, souvent, où il est vraiment Vinicius, il est bon. Mbappé, il n'est pas là.
Ah, mais parce que Vinicius, il est bon quand Mbappé, il n'est pas là, parce qu'il doit jouer tout seul. C'est tout.
Aussi, il a plus de ballons.
Voilà, c'est tout. Mais parce que quand t'as deux mecs qui réclament les ballons, tu peux pas avoir tous les ballons. C'est tout.
Oui, mais c'est de ça qu'il se plaint beaucoup. Ben c'est pour ça qu'il se plaignait aussi auprès de Bellingham.
Pour le Real.
Mais messieurs, excusez-moi, on va juste passer, parce qu'on peut s'attarder longtemps encore sur ça. Betis Séville qui sont imposés face à Oviedo 3-0. Celta Vigo qui sont imposés 3-1 face à Elche. Athletic Bilbao qui sont imposés 4-2 face à Alaves, qui peuvent encore y croire, même s'il y a de petites chances à l'Europe, avec un doublé de Nico Williams qui est bien de retour. Atlético de Madrid avec une équipe bien remaniée sont imposés 2-0 face à Valence. Et Villarreal qui sont imposés 5-1 face à Levante. Marcelino qui partira en fin de saison, malgré la qualification en Ligue des Champions, c'est officiel. Villarreal avec 68 points, troisième sur le podium. Quelle belle saison, en tout cas nationale pour.
C'est dommage qu'il parte.
Pour Villarreal.
Il peut rester sur une stabilité.
Après, il a l'habitude de partir, de revenir. Je pense pas qu'il va revenir à Marseille. Jason, si tu.
Attends, tu le veux pas, Jason.
Voilà, en vue de ce qui s'est passé à Marseille avec les menaces de mort, etc. Je pense que Marseille, je pense qu'on peut oublier. Voilà, en tout cas, ça fait le Barça premier avec 88 points, Real Madrid deuxième avec 77, Villarreal 3e avec 68, Atlético de Madrid avec 63, 4e, 5e Betis Séville avec 53 points, 6e Celta Vigo avec 47, Retafe les suit de près avec 44 points, FC Séville qui sont dans la zone rouge avec 35 points, eux qui sont en train de faire match nul pour l'instant 0-0, ça va être la mi-temps face à la Real Sociedad, Levante 19e et Oviedo 20e. Voilà pour la Liga. On va se faire une petite virgule avant de revenir avec la PL, monsieur. La première ligue, un choc au sommet, on peut le dire, de PL, en tout cas entre Liverpool et Manchester United. Manchester United qui ont montré les crocs à Old Trafford. On y revient juste après. Le stade des théâtres, tout simplement, là où il se passe beaucoup de choses, et on a pu voir beaucoup de choses encore durant ce match-là. Liverpool qui sont revenus à hauteur de 2-2 après avoir été menés 2-0. Un peu grâce, on va dire, à des mauvaises passes, que ça soit du gardien ou de Ahmed Diallo, ce qui a permis à Liverpool, mais Liverpool n'ont pas montré grand-chose sur ce match, et Manchester United se sont imposés avec un but de Maynou en fin de match, assez logiquement, on peut le dire, Bambori.
Et assez logiquement, ils ont dominé la partie. Et ils continuent un peu sur leur lancée quand même sur cette fin de saison-là avec Michael Carrick. Ils ont bien remonté la pente et Liverpool qui sombre encore un peu plus avec beaucoup de contre-performances sur ces dernières semaines. Et United qui assure leur place en Ligue des Champions aussi pour la saison prochaine, c'est une bonne chose pour eux. Ça va leur faire un bon coup au moral et voilà. Mais sinon, dure fin de saison pour Liverpool en tout cas.
Dure fin de saison pour Liverpool. Après, pour Liverpool, comme on le dit si bien, je pense que le plus dur, c'est de jouer la PL, d'être qualifié en tout cas en Ligue des Champions. Et pour l'instant, ils le sont avec 6 points d'avance sur Bournemouth. Ils n'ont plus qu'à gratter quelques petits points pour espérer être sûr d'être qualifié pour... Mais ça va pas être facile. Bon, à domicile, le prochain match, ça sera contre Chelsea. Avec un Chelsea, comme on l'a dit juste avant, un Chelsea qui se sont imposés un peu plus tôt dans la journée. 3-1 face à Nottingham Forest. Leur prochain match après, ça sera Aston Villa. Et ensuite, ils joueront à domicile face à Brentford. Pour Manchester United et pour Chelsea. Tottenham qui renoue avec la victoire. Tottenham qui se sont imposés 2-1 avec un but de Buendia en fin de match. Gallagher et Richarlison pour. Côté Tottenham, Tottenham qui sont sortis de la zone rouge au détriment de West Ham qui sont imposés 3-0 face à Brentford. Newcastle aussi qui renoue avec la victoire, qui sont imposés face à Brighton 3-1. Les Wolves tenus en échec face à Sunderland 1-1 à cause d'un carton rouge aussi donné à Sunderland. Messieurs, Manchester City qui sont en train de s'imposer 1-0 face à Everton. Et Arsenal qui ont enchaîné, Arsenal qui sont imposés 3-0 face à Fulham. Messieurs, très rapidement, vos réactions.
Ils ont fait le taf. Très bonne performance d'Arsenal.
Tu crois encore au titre pour Arsenal?
Oh non. C'est bon, je suis redescendu sur terre avec Arsenal.
Ah, c'est possible après.
Non, c'est possible. En fait, là où c'est bien ce, que, ce résultat que Arsenal a fait, c'est qu'ils ont mis, ils ont mis 3 buts. Mmh. Comme on sait que ça peut jouer sur la différence de buts, là, ils ont mis 3 buts. Bon, voilà, ils ont fait leur match. Après, maintenant, il faut voir les résultats de City, mais il reste quelques matchs. Hein. C'est possible pour Arsenal encore. Hein.
Tout est jouable, franchement, faut pas les enterrer, non. Ils vont jouer le coup à fond et tout va se jouer, je pense, à la différence de but. Après, si City aujourd'hui s'impose que 1-0 face à Everton, c'est-à-dire que le prochain match, il faut qu'ils en mettent 3 et s'ils n'en mettent pas 3, Arsenal est premier.
Après, Arsenal devront jouer West Ham à l'extérieur.
Donc West Ham qui se bat pour la descente aussi.
Ouais, West Ham qui se bat pour le maintien. Excuse-moi, mais pour le maintien, pas pour la descente. Personne se bat pour la descente.
Oui,
pour le maintien. On se bat tous pour le maintien. West Ham pour le maintien. Burnley, les carottes sont cuites, mais ils joueront Burnley à domicile et ils iront à Crystal Palace. Si Crystal Palace.
Donc, Crystal Palace.
Ils ont moyen de mettre quelques scores, Arsenal.
Ouais, ils ont moyen.
Ah, Burnley, ouais, West Ham.
Bah après, ils jouent entre deux Ligues des Champions aussi.
Ah, physiquement, ça peut aussi.
Après, là, si, comme ils jouent demain soir, si jamais ils se qualifient, ça, la Ligue des Champions, vu qu'elle se jouera après la fin du championnat, ça y est, c'est déjà aux oubliettes.
Oui, bien sûr.
Donc, il y a moyen qu'ils puissent mettre des scores à West Ham.
T'as quelques retours de blessés, t'as Saka qui revient.
Ouais, Burnley, surtout que Burnley, ça y est, ils sont cuits.
Et Crystal Palace peut-être aussi.
Crystal Palace, ils vont en finale.
Après, c'est dur de gagner chez eux à Crystal Palace.
Après, Manchester City, eux, à domicile contre Brentford. Après, ils jouent à domicile contre Crystal Palace. Ensuite, ils auront à Bournemouth. Et ils joueront à domicile contre Aston Villa pour la dernière journée.
City, tu vois, c'est pas des équipes faciles. Hein.
Après, Aston Villa, s'ils ont aussi la Ligue Europa et ils ont plus rien à jouer à Aston Villa.
S'ils
commencent à faire tourner Aston Villa, oui, ils sont à égalité avec Liverpool. Ils sont à 6 points de Bournemouth.
5, je crois.
6.
Soit 6
en 3 matchs, ils ont juste une petite victoire à faire à Aston Villa pour assurer. Pour valider, et prochain match, c'est contre Burnley.
Ouais, je pense que Bournemouth, ils vont pas faire carton plein non plus.
Non, je pense pas. Ouais,
donc,
crois pas.
Je pense qu'Aston Villa, eux, l'importance là absolue, je pense, c'est juste la Ligue des Champions. Soit 4ème ou 5ème, il n'y a pas une grande différence.
À part s'ils ont envie de tuer les espoirs de City. De, comme quand c'était quoi, c'était quand City jouait contre QPR, tout ça.
Ouais, il y avait Coutinho de l'autre côté, ils menaient 2-0 à Aston Villa. Et finalement, ils perdent le titre, c'est incroyable.
Donc, tout dépend de l'état d'esprit d'Aston Villa à ce moment-là.
Voilà, en tout cas pour l'APL, comme on l'a dit, Arsenal premier avec 76 points, virtuellement Manchester City avec 73 points avec la victoire qui se profile, United 3ème avec 64 points, Liverpool 4ème avec 58 points, Aston Villa 5ème avec 58 points, Bournemouth 6ème avec 52 et Brentford avec 51 points, Brighton 50 points et Chelsea 48, Chelsea qui commence à s'éloigner de plus en plus de la conférence en fait.
C'est compliqué. Quand tu dis, on commence l'année, on dit Chelsea. Moi, je disais Chelsea, c'est 4 premiers.
Au final, à un moment même, on disait que ça pouvait jouer le titre. Comme on voyait, en fait, tout le monde était pas très bon.
Tu dis Manchester, ils vont encore. Regarde, ils sont.
Manchester United, tu disais pas en début de saison qu'ils allaient jouer le titre.
Ouais, c'est justement disais, mais ils vont mettre peut-être la conférence.
Ouais, c'est ça. Et encore. Ouais. Et Manchester United, j'ai envie de vous dire, même l'année prochaine, ils pourront peut-être tenter la Ligue des Champions. Hein, ils pourront même tenter le titre en PL. S'ils se renforcent. S'ils se renforcent à quelques endroits. Parce qu'avec Carrick, on a vu les 5 derniers matchs contre Arsenal, Manchester City, Liverpool, Chelsea. C'est que des victoires.
Justement, moi, parce que là, on sait pas en fait si Carrick va rester. Pour moi, il faut qu'il reste.
Ouais, je pense qu'il va rester.
Ouais, avec Manchester, on sait pas. Parce que eux...
C'est pas que Manchester, c'est avec les équipes anglaises, tout
c'est
court.
C'est vrai. Franchement, mais Manchester, encore plus. Attention.
Franchement,
on verra bien, en tout cas.
Pour une fois, il y a un entraîneur qui fait un bon taf. Ce serait vraiment bizarre
de pas
le garder.
De toute façon, c'est sûr qu'il va. Si Manchester le garde pas, derrière, je pense on va aller le chercher.
Ouais, c'est sûr.
Ouais, en tout cas, voilà pour United. Hein. Messieurs, on va juste parler des nominés UNFP très rapidement aussi avant de passer au quiz. On va se faire juste une virgule entre-temps et on revient juste après. De retour dans les locaux de Montparnasse FM, il est 21h58 si vous venez de nous rejoindre. Nous sommes en fin d'émission, nous allons parler des trophées, des nominés trophées UNFP. Messieurs, quelles sont vos sensations, pour vous, les joueurs qui manquent dans cette liste-là et des joueurs qui ne devraient pas être aussi dans cette liste-là, messieurs?
Moi, c'est plus la catégorie espoir. Là.
Je rappelle, je vais vous rappeler les nominés. Hein. Meilleur joueur de Liga de Ligue 1, Ousmane Dembélé, Vitinha, Nuno Mendes, Mason Greenwood, Florian Thauvin. Meilleur gardien, Dominique Greff, côté OL, Robin Rissé, côté Lensois, Hervé Kofi, côté Angevin, Mike Penders, côté Strasbourgeois, et Brice Samba, côté Rennes. Aucun gardien parisien d'ailleurs. Hein.
Oui.
Eux qui ont joué que les demi. Oui. Meilleur espoir, Désiré Doué, Roi Onéves, Wair Zahir Emery, Ayoub Bouadi, Valentin Barco. Meilleur entraîneur, Lucien Riquet, Pierre Sage, Paulon Fonseca, Bruno Genesio, Olivier Pantaloni. Messieurs?
Moi, en tout cas, pour les, je pense qu'il manque des Lyonnais.
Ouais, Tolisso.
Pour moi, Tolisso et même Alfonso Morera. Chez les espoirs, je pense. Chez les jeunes, je pense à Alfonso Morera. Et pour les meilleurs joueurs de Ligue 1, franchement, moi, il manque Tolisso. Parce que la saison que Tolisso nous pond là, elle est magnifique.
En fait, moi, c'est la règle. Quand je disais tout à l'heure des espoirs, c'est qu'en fait, il faut qu'ils changent l'erreur. Quoi. Parce que là, Doué, c'est Neves, c'est plus des espoirs. Même s'ils sont jeunes. Donc en fait, la règle, c'est moins de 21 ans. C'est vrai qu'ils ont moins de 21 ans, mais ils ont plus de 100 matchs. ZRM, il a plus de 100 matchs en Ligue 1. C'est plus un rookie, lui. Tu vois, il faudrait...
Ouais, bien sûr, mais après, oui. Mais après, j'ai envie de te dire... S'il est aussi précoce, oui, tu veux faire quoi?
Non, mais après, le truc, c'est que ces joueurs-là, ce que tu retiens d'eux, c'est même pas ce qu'ils font en Ligue 1.
Oui, c'est plus en fait.
C'est plus en Ligue des Champions.
Regarde, Dembélé, tu le vois, il a 9 matchs. Il est...
Non, en fait, en Ligue 1, je pense, on n'est pas surpris.
Ouais, de ce qui...
Pour eux, c'est facile. Et ouais. Du coup, tu te dis, ouais. On s'en fout du niveau. Mais... Tu vois, c'est pour ça que tu fais moins attention.
Et même ce qu'ils
mais
font,
quand ils jouent,
mais
en tout
même,
cas.
Mais même en Ligue 1, sur les stats, ils montrent pas qu'ils éclatent le truc.
Après,
parce que c'est pas là où ses propres joueurs veulent performer le plus. Tu sens que.
Oui, je suis d'accord avec toi.
C'est une manière de garder la forme.
Après, c'est. Il faut dire, les nominés, c'est les joueurs, c'est les acteurs qui les font. Donc, ils ont demandé à chaque joueur de nommer le meilleur joueur. Donc, si eux, ils mettent Dembélé qui a fait peut-être 15 matchs, bah, Dembélé, lui, il n'y peut rien.
Est-ce qu'il ne manquerait pas...
Le Paul aussi.
Le Paul. Meilleur buteur pour l'instant.
Meilleur buteur.
Égalité avec
Panicelli. Mais je pense aussi, c'est un peu trop tôt.
Oui.
Deux journées de la fin, non, en fait, tu peux les donner.
Non, parce que...
Ouais, mais non, parce que regarde, par exemple, si Rennes va chercher l'équipe championne, là.
Tu vois.
Oui, oui.
Mais
le pôle, depuis deux journées, au moins, tu sais que le pôle, il doit faire partie de ce top.
Ouais, mais d'autres, il leur faut beaucoup plus de temps.
Deux matchs, ça va rien changer. Les deux matchs, là, ça va rien
changer. Non, mais regarde, si Real maintenant vont en Ligue des Champions et le pôle, c'est le meilleur buteur, il est même pas dans la liste.
Ouais, il est même pas dans la liste, c'est ça.
Oui, mais c'est pour ça que je te dis que, en fait, quoi qu'il en soit, t'es obligé de le mettre dedans. Quand pour moi, Sangaré,
moi, pour moi, Sangaré, pas de tevin. Mais bon.
C'est le meilleur Lensois, en tout cas, d'après les notes, c'est le meilleur Lensois.
Pour moi, c'est le meilleur Lensois de cette année.
Donc, je ne comprends pas aussi comment.
Il y a même Thomasson.
Ouais, Thomasson aussi.
Même Alain Sarr, c'est pas mal aussi.
T'imagines, Lens, ils sont deuxième, ils n'ont pas un joueur.
Ouais.
Pour vous, qui devrait être le coach?
Le coach, je pense qu'il faut le donner à Sadj, je pense. À Lens. Même si ça va être peut-être Luis Enrique, mais ce qu'il fait, ce qu'il arrive à faire avec Lens. Même Fonseca aussi, il fait pas mal Fonseca aussi avec
lui.
Oui,
mais
il y a eu
c'est plus Sage pour moi.
Des gros bas aussi.
Parce que là ils sont
ouais, pour moi, Pierre Sage.
Ok, messieurs, on y reviendra la semaine prochaine. Hein, messieurs, on est en fin d'émission. On va juste accéder au quiz. Hein. Ça sera un petit quiz, messieurs. Donc, soyez prêts. Jason, c'est quand tu veux. Téléphone posé, s'il vous plaît, messieurs. Quelle est l'équipe qui a encaissé le plus de buts dans les 5 grands championnats?
Retafe.
Non.
Metz.
T'as dit au hasard.
Oviedo.
Oui, c'est Metz. Bien joué, Bambouri. C'est Metz avec... t'as le nombre de buts?
Non, pas du tout.
Quelqu'un a le nombre de buts? Le plus proche.
Quand gagne championnat?
70.
Le plus proche gagne un point. Oui, qu'en championnat. De toute façon, je joue que le championnat.
Non.
je te rassure. Oh, bah, il y a la Coupe de France. Bon, je pense pas qu'on va la compter. 70 pour Jason.
Moi je dis 76.
Ah, 76.
Il est bon lui. 80.
80.
60.
60. Bah c'est Jason le plus proche avec 72. Mmh. 72. Ça fait 2 points pour Bambori. J'accorde quand même 2 points pour celui qui a trouvé l'équipe et 1 point pour Jason qui est le plus proche du nombre de buts. Est-ce que vous pouvez me citer la deuxième équipe qui a encaissé le plus de buts dans les 5 grands championnats? Pareil, hein, 2 buts pour celui qui trouve le.
C'est pas Burnley?
C'est Burnley, oui, exactement, c'est Burnley. Avec combien de buts encaissés, messieurs?
Bah, si c'était 72, 80. 72,
ouais, j'allais dire 80, moi aussi.
Buts encaissés? Mais non.
Buts encaissés.
Mais non, les gars.
80?
Mais non, c'est pas 80.
Combien? Moi, je dis 65.
Mais, les gars.
70, je reste.
70, tu restes?
Ouais, C'est bon, allez, 67.
67. Et bah, mais messieurs, c'est mais, le moins de buts encaissés. Bah oui. Déjà, ça pouvait pas être au-dessus, Omar. Bah c'est 71.
Bah donc, c'est encore moi.
Ça fait 2 points. Maintenant, qui est l'équipe qui a marqué le moins de buts dans les 5 grands championnats? Il y en a 2. Et c'est 2 points. Il y en a 2.
Ah non. Edenheim.
Non.
Nantes.
Non.
Le moins de buts.
Rétafé.
Le moins de buts. Non, après, il faut pas
Oviedo.
Que des noms à la volée non plus.
Je cherche le dernier de
Attendez,
série
parce que je regarde.
Est-ce que c'est pas
Nantes? Il n'y a pas Nantes.
Ouais, c'est soit Serie A Liga, je pense.
Hellas Vérone,
ça fait 2 points pour Bambouré, oui. Hellas Vérone, messieurs. Et il y a encore une autre équipe.
Cremonese ?
Non.
Bah, Metz ?
Il y a encore une autre équipe qui ont marqué le même nombre de buts après Hellas Vérone. Je vous rappelle quand même que Hellas Vérone sont.
Pise !
Sont pas derniers de Serie A, non.
C'est pas. Non, pas, on a déjà dit Oviedo, non ?
Non, on a dit.
Sassuolo ? Non.
Non. Sassuolo sont dans les. Non. Marqué. Est-ce que c'est pas les Wolves ?
Non plus.
Elle a dit dernier de Serie A, je pense.
Non,
j'ai pas dit Serie A.
Il a pas dit ça, il a pas dit ça.
Ouais. Mais t'étais pas loin.
Bah, c'est Burnley, alors.
Non.
Ah, bah, je.
C'est en Serie A, messieurs.
Voilà, tu vois ? Si. Mais je sais même plus ce qu'il est le dernier.
C'est pas forcément le dernier.
Non, c'est pas forcément le dernier. Ah. Regarde.
La Florentina ?
Non.
Non, il faut remonter à la Florentina.
Torino ?
Franchement, je vois pas. Non.
Ça y est ? Vous abandonnez ?
Je
vous le donne ?
Je vais dire au hasard. Donc.
Bah, c'était Lecce.
Ah, Lecce. Oh, j'aurais jamais cité.
Non, j'aurais jamais trouvé.
Lecce, pareil. Est-ce que vous savez combien de buts ont marqué ces deux équipes ?
Combien de buts ?
30.
Tu dis 30 ? Ouais.
Moi, je dis. Ouais, 35.
35 ?
Non, 23.
23 ?
Ouais, je dis 25.
25. Eh ben, messieurs, c'était 24. Ça se joue entre les deux. C'était 24 buts. 24 buts pour Hellas Vérone et 24 buts pour Lecce. Du coup, je vais partager les points. Hein. Ça fait 5 points pour Bambouré. 1 point pour Omar. Voilà, messieurs. Tout simplement, je pense que c'est une fin d'émission. Bambouré est notre grand gagnant. Hein. Merci Bambouré d'avoir participé à cette émission avec nous. Merci Omar. Merci Moussa. Merci à Jason.
Merci
à la technique et avec nous aussi dans les locaux. Et merci à vous, nos chers auditeurs et auditrices. Hein. Et on va se dire à la semaine prochaine hein, pour du football, encore du football, toujours du football. Bonne soirée à vous et faites attention à vous.
Bonne soirée.